Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer puisqu'il est, il est l'heure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on accueille Jean-Philippe Uzan, donc qui est astrophysicien, qui travaille à l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, le titre exact, en fait, qu'on proposait, c'était donc matière noire, énergie sombre. Faut-il changer notre représentation de l'univers ? Voilà.
Bon, bonjour à tous. Prenez votre temps, asseyez-vous. Bon, c'est un plaisir pour moi d'être là. C'est la première fois que je viens vous parler ici. Et en fait, depuis plusieurs années, j'essaie quand même de rencontrer un peu les gens pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc, je fais de la cosmologie. La cosmologie, c'est la science qui s'intéresse à l'univers dans son ensemble, essayer d'obtenir une description de l'univers. Alors, c'est une science dont on entend beaucoup parler dans les journaux. Il y a eu des satellites comme le satellite Planck. Vous avez vu des images. On vous parle de choses comme matière noire, énergie sombre, trou noir, des mots pas possibles. Et c'est vrai que ça excite beaucoup de curiosité. Et aujourd'hui, comme je vous connais pas, en fait, donc quand je connais les gens, ou disons que ça dans des environnements où je sais qu'ils sont déjà intéressés par les sciences ou qu'ils en suivent beaucoup, je sais comment leur parler. Mais comme je vous connais pas, je sais pas comment vous parler. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de partir vraiment très très large pour vous parler un petit peu de ce que ça veut dire. Parce que, plutôt que de vous parler de tout ce qu'on sait, ce qui est intéressant, mais il y a beaucoup de choses dans les livres sur tout ce qu'on sait, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on fait une construction. Comment on construit un modèle cosmologique? Comment on se convainc à un moment qu'on a une description qui est une bonne description? Sur quoi repose cette description? Finalement, qui met en œuvre la notion de démarche scientifique? Et ça, ce que je vais vous dire sur la cosmologie, elle peut être valable pour beaucoup d'autres domaines de la science. Et puis, ça va me permettre de vous parler de l'univers et puis un peu de l'évolution de ces représentations. Et ça, c'est quelque chose qui à mon avis, est assez important parce qu'aujourd'hui, on a... quand j'observe un petit peu ce que l'on fait dans les écoles, on enseigne beaucoup de savoir, mais on n'enseigne pas finalement la valeur de ce savoir. Comment ce savoir a été déterminé et quelle crédibilité on doit donner à ce savoir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je sais qu'en général, vous êtes ici, vous êtes des gens engagés, et je pense qu'il est important aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, de savoir quelles sont les valeurs des acquis scientifiques et qu'est-ce que c'est que de faire de la science. Parce que, en particulier, les représentations de l'univers, mais c'est aussi vrai pour d'autres théories, comme la théorie darwinienne de l'évolution, est attaquée par des gens qui se font passer pour des scientifiques et qui n'en sont pas, en essayant de dégrader ce que sont les valeurs de la science. Donc, en tant que citoyen, je pense que c'est important de savoir ce que c'est qu'un savoir scientifique. Et dans ce cadre-là, le scientifique va s'intéresser à une question. Il arrive devant ce questionnement et en général, il a son héritage, qui est son héritage culturel, métaphysique. Il peut avoir des croyances. Mais au moment où il va créer du savoir scientifique, il va créer un savoir qui est complètement, en fait, lavé de tout ce qui l'a amené à se poser ces questions. Et ce savoir, c'est un savoir qu'une communauté a validé en tant que telle, avec une démarche qui est la démarche scientifique, et qui, quelque part, se base sur une sorte de matérialisme méthodologique. Pas philosophique, pas métaphysique, mais méthodologique, c'est-à-dire avec des règles, avec la possibilité de faire des expériences et des observations. Alors c'est pour ça que je vais distinguer deux mots qu'on utilise souvent. C'est le même mot, en fait, vous allez voir, c'est un peu bizarre. C'est le mot cosmologie, mais je vais en considérer avec un petit C et un avec un grand C. Le petit c, c'est la cosmologie que moi je fais, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle la cosmologie scientifique. C'est celle qui se repose sur des constructions de notre univers à partir de ce que je sais de la physique, à partir de ce que je suis capable d'observer. Et la cosmologie avec un grand C, c'est une discipline qui est beaucoup plus ancienne, millénaire, qui se base sur les représentations de notre univers dans son ensemble. Et ça, c'est une discipline qui est plutôt une discipline métaphysique. Les gens vont vous dire comment est l'univers. Alors bien sûr, dès que je fais des progrès dans ce que j'appelle la cosmologie, dès que je comprends des choses sur l'univers tel que je l'observe, ça met des contraintes sur les constructions de l'univers dans son ensemble que je peux construire. D'accord? Vous comprenez le lien entre les deux, mais elles sont de nature complètement différente. Ici, on a une démarche qui est basée sur la physique et la science, et ici, on a une démarche qui est plutôt une démarche qui peut être basée sur la métaphysique, parfois sur la mythologie, parfois sur la croyance. Alors il y a une relation entre les deux se parlent, il y a une frontière, et cette frontière va se déplacer au cours du temps en fonction des savoirs que l'on va obtenir. Et parfois on a des questions qui sont des questions de cosmologie, et puis on va se rendre compte que, eh bien, les observations ne nous permettront pas de lever cette question, et donc cette propriété va tomber dans l'escarcelle de la cosmologie, c'est-à-dire qu'on peut prétendre que c'est le cas ou pas. Un exemple, est-ce que l'univers est fini ou infini ? Alors pendant longtemps, c'était une question de philosophie, est-ce que l'univers finit infini ? Les philosophes écrivaient là-dessus avec des arguments qui valaient ce qui valait. pendant la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, en fait, on a pu se poser la question de savoir est-ce que l'univers est fini ou infini à partir d'observations. On a fait des tests. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans les années 2000, en particulier avec Jean-Pierre Luminaire, Roland Lehoux, que vous connaissez peut-être. On a donné des réponses, on a montré que l'univers devait être plus grand que quelque chose. Et finalement, cet univers aujourd'hui, il doit être plus grand que ce que je suis capable d'observer. Et ce qu'on a montré, c'est que, qu'il soit fini ou infini, à partir du moment où il est plus grand qu'une certaine taille, nous ne pouvons pas faire la différence entre un univers qui est très très grand et un univers qui est infini. Et aujourd'hui, les observations ne nous permettent pas de faire cette distinction. Donc la question de savoir s'il est fini ou infini redevient une question de cosmologie parce qu'aucune observation ne nous permet d'avoir prise sur cette question. Donc vous comprenez un petit peu ce lien entre les deux. Et c'est pour ça que tous les savoirs qu'on établit d'un point de vue d'une démarche scientifique sont importants parce qu'ils mettent des limites sur ce qu'on est capable les histoires qu'on est capable de raconter. Alors, là, il y a un mot... Donc les deux utilisent le mot cosmos. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot cosmos? Parce que c'est un de mes mots préférés... En général, je dis en français, mais c'est pas un mot français, c'est un mot grec. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot cosmos? Alors, réponse. Alors, un univers avec une version fermée, qui dit mieux? Monsieur là-bas? L'ordre. Alors, il y a une notion d'ordre dans le mot cosmos. Alors, le mot cosmos, ça a plusieurs sens. C'est vrai que le mot cosmos, c'est le mot qu'on utilise pour décrire l'univers. Et en grec, le cosmos, c'est ce qui s'oppose au chaos. Donc c'est l'ordre par rapport au désordre. C'est un mot... Alors, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ça pour parler de l'univers? La légende veut que Pythagore, donc le grand mathématicien qui vivait, c'est quoi? C'est 540 avant Jésus-Christ, dans l'île de Samos, ait utilisé ce mot pour décrire la voûte céleste. Donc à l'époque, on pensait que la Terre était au centre du système solaire, que toutes les planètes tournaient autour de la Terre et que tout ça était compris dans une grande sphère sur laquelle il y avait les étoiles et que cette sphère tournait autour de la Terre en 24 heures. Donc la voûte céleste est l'ensemble du ciel étoilé, celui que vous pouvez voir avec vos yeux la nuit, donc qui représente aujourd'hui ce qu'on sait, c'est les étoiles de notre galaxie. Et Pythagore a décidé d'appeler cette voûte céleste le cosmos. Et la question, c'est pourquoi? Alors c'est assez marrant, je vais vous raconter l'histoire parce que c'est une histoire vraie en fait, qui est arrivée... En 2001, où j'allais dans une conférence en Afrique du Sud, et donc je passe la douane, et le douanier me demande « Pourquoi est-ce que vous venez ici ?» Et je lui dis « Je viens à une conférence de cosmologie. » Et il me demande « Et vous avez des échantillons ?» Oui, alors sur le coup, ça ne m'a pas fait tilt, parce que bon, peut-être j'étais fatigué de ça, puis je me dis « Pourquoi il me demande des échantillons ?» Je me suis dit « Bien sûr, lui, il ne pensait pas à cosmologie et l'univers, il pensait à cosmétique, donc il pensait que j'avais des petits échantillons pour me maquiller. » Donc dans le mot cosmos, quelque part, il y a aussi la notion de beauté. Et en fait, quand Pythagore choisit ce mot, c'est parce que ça veut dire ordre, mais ça veut dire un autre mot. En grec ancien, le mot cosmos, c'est le nom des parures, donc des bijoux que les femmes portaient, des très beaux bijoux. Et donc, pour Pythagore, en choisissant ce mot, qui veut dire beauté, il voulait nous parler de l'émotion qu'il avait en regardant ce ciel étoilé. Et c'est vrai que si on se rappelle des moments où on a pu regarder le ciel comme ça, dans un ciel très très pur, il y a quelque part une sorte d'émotion, notre relation au cosmos. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Quand on va dans des écoles, on discute avec des enfants, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de connaissances sur l'univers, mais qu'ils oublient simplement de lever les yeux et de regarder la Lune. Alors si vous avez des enfants, faites-les regarder la Lune, faites-les dessiner la Lune, regardez quand est-ce qu'il y a des planètes, quand est-ce qu'il y a des étoiles, parce qu'on a perdu cette connexion au ciel, et finalement, cette connexion est millénaire. J'ai toujours tendance à imaginer... les hommes, il y a 30 000 ans, où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télévision, et finalement, le soir, ils étaient au coin du feu, et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était raconter des étoiles sous le ciel étoilé. Et c'est un petit peu ce qu'on continue à faire, et finalement, en faisant de la cosmologie, on essaye de tisser ce lien entre nous et notre univers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, modéliser le cosmos? Donc, on a parlé du mot... Hop, c'est l'autre. On a parlé du mot cosmos. Maintenant, il y a le mot modèle. Alors, en science, c'est vraiment un des concepts fondamentaux de la science. Un modèle... Vous allez vous intéresser à n'importe quel phénomène de la nature, c'est faire une représentation qui va être à la fois simplifiée pour pouvoir finalement dire quelque chose dessus. Parce que si vous voulez décrire le phénomène avec tous ces petits détails, vous n'allez pas être capable de faire quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc quelque chose qui soit suffisamment simplifié, mais qui soit pertinent pour poser des questions intéressantes. Alors un exemple, c'est que si je vous demande quelle est la forme de la Terre? Quelle est la forme de la Terre? Un ballon de foot? Alors elle est légèrement ovale, vous voyez, on s'en rend bien compte. Donc la forme de la Terre, si on se pose la question de la vraie forme de la Terre, c'est compliqué, il y a des montagnes, il y a des plaines, en fait dans le détail, la forme de la Terre c'est quand même un truc assez biscornu. Il est vrai qu'en première approximation, on peut dire, la Terre est une sphère. Et ça c'est un premier modèle de la Terre est une sphère. on n'a pas toujours pensé ça. Il a fallu longtemps pour comprendre que la Terre était une sphère. Pendant longtemps, on a pensé que la Terre était plate, limitée par un bord, comme une sorte de disque qui flottait au milieu de l'univers. Est-ce que vous savez à quelle époque on a compris que la Terre était une sphère? Alors, Christophe Colomb... Pourquoi Christophe Colomb? Alors, il a espéré rejoindre l'âne. Le problème, c'est qu'il ne savait pas si on pouvait faire le tour. Il a trouvé quelque chose d'autre, donc ce n'est pas vraiment Christophe Colomb. Quel est le premier qui a fait le tour de la Terre? C'est Magellan, le premier à avoir fait... D'ailleurs, en fait, Magellan n'a pas fait le tour de la Terre parce qu'il est mort avant de revenir. C'est son valet, quoi, la personne qui travaillait pour lui, son aide, qui lui a fait le tour de la Terre, qui était un esclave, qui a été affranchi. C'est une histoire assez belle. Mais en fait, même avant, parce que ça, c'est tard. En fait, on l'a su bien avant. Est-ce que vous avez une idée de qui a eu la première preuve de la rotondité de la Terre? Alors, Ératosthène, Giordano Bruno, c'est trop tard. Ptolémée, alors, on me dit du Ptolémée, de l'Ératosthène, c'est très bien. Alors ça, c'est Ératosthène, c'est le premier qui a réussi à mesurer la taille de la Terre. Mais bien avant ça, je vous ai parlé de Pythagore tout à l'heure. Alors, en fait, on attribue à Pythagore vraiment la première preuve de la rotondité de la Terre, parce que Pythagore avait remarqué que pendant des éclipses de Lune, donc quand vous voyez l'ombre de la Terre sur la Lune, il s'est rendu compte que l'ombre de la Terre sur la Lune était toujours un disque. Et il s'est posé la question, quelle est la forme géométrique où quand je fais son ombre, hop, j'obtiens toujours un disque. D'accord? Alors essayez. Si vous avez un cylindre, j'ai pas de cylindre, mais si vous avez un cylindre, on va faire un cylindre. Si j'ai un cylindre, par exemple, vous imaginez qu'il est... Donc là, vous voyez, le cylindre, bon, si c'était plein, ici, vous pourriez avoir un disque, mais comme ça, vous auriez un rectangle, ça marcherait pas. Donc la seule forme, et ça, c'est vraiment le développement des mathématiques et la compréhension de ce que c'est qu'une projection, qui va vous permettre de démontrer que la seule forme dont la projection est toujours un disque, c'est la sphère. Donc sans avoir besoin de voyager, de mesurer quoi que ce soit, il a compris que la forme de la Terre était une sphère. Alors après, on m'a dit, peut-être c'est une sphère qui est un peu aplatie. Donc vous voyez, le premier modèle de la Terre, c'est de dire, c'est une forme compliquée, mais on peut faire en première approximation une sphère. Et ça permet de dire beaucoup de choses, on va connaître le rayon de la Terre, ça va nous permettre de calculer des distances à la surface de la Terre. On a compris ensuite, et ça c'est plutôt à l'époque de Newton, qu'à cause de la rotation de la Terre, la Terre devait être aplatie au pôle, donc elle avait plutôt une forme d'ellipsoïde. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui est l'altimétrie satellitaire, on est capable de déterminer la forme exacte de cette Terre. Et c'est tellement compliqué qu'on lui a donné un nom, on appelle ça le géoïde. Et c'est impossible de dire en mots simplement ce que c'est qu'un géoïde. Vous voyez, sphère c'est simple, sphère aplatie, on le comprend tous. Géoïde, il faut aller regarder sur Internet, et puis on a une forme bien gondolée, qui même change dans le temps. Donc vous voyez, cette notion de modèle, c'est exactement ça, c'est simplifier le phénomène physique ou l'objet d'étude, mais quelque chose qui nous permet quand même d'avoir prise et de pouvoir en discuter. Et c'est ce qu'on va faire avec l'univers, parce que si je voulais dire c'est quoi l'univers, c'est quoi mon modèle de l'univers, si je voulais vous dire avec précision la place de chacune des galaxies, on va pas s'en sortir. D'accord? Simplement dans l'univers observable, il y en a des centaines de milliards. Si on commence à faire un catalogue des centaines de milliards, on n'apprend rien. C'est plutôt ça serait faire de l'entomologie, faire des catalogues, et c'est pas ce que le modèle veut faire. Il veut dire quelque chose de très générique. Alors, ça veut dire que cette construction, elle n'est jamais parfaite. Donc, il y a beaucoup de gens qui attaquent les constructions scientifiques en vous disant « ça n'explique pas ça, ça n'explique pas ça ». Comme vous faites une description scientifique, il est évident que cette description ne peut pas tout expliquer. Elle a des limites dans ce qu'elle peut expliquer. Et ça, il y a un très beau texte d'un philosophe qui s'appelle Jonas Kohn, qui est un philosophe kantien du XVIIIe siècle, qui dit « mais en fait, comprendre, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. Vous ne comprenez que les choses où vous êtes capable de déterminer les limites. Parce que vous allez devoir dire, la Terre c'est un rond, la Terre ça a certaines propriétés. Et vous pouvez toujours poser la question de pourquoi cette propriété et pourquoi pas une autre. Donc en fait, ce que vous expliquez, c'est un nombre de critères, de caractéristiques qui est fini. Mais comme les petits-enfants, vous pouvez toujours poser la question pourquoi sur n'importe quoi. Eh bien, le questionnement, lui, semble infini. Et il dit, en fait, le fait qu'on puisse poser des questions comme ça à l'infini, que notre imagination semble infinie et que ce qu'on est capable d'expliquer est fini, on a l'impression qu'on est toujours en train de rien expliquer. Mais en fait, la science, c'est exactement ça. C'est faire une construction et de bien connaître quelles sont les limites de cette construction. Quand un physicien connaît les limites de son modèle, en fait, il est content parce qu'il maîtrise finalement sa méconnaissance, les choses qu'il ne connaît pas. Et surtout, il est capable de poser de nouvelles questions qui vont lui permettre de monter de nouvelles expériences ou de déterminer de nouvelles théories physiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en particulier dans les modèles, on va parler la notion d'ontologie, c'est-à-dire des objets, des structures fondamentales qui apparaissent. Si je parle par exemple de la matière, eh bien, je vais prendre comme premier un certain nombre de particules fondamentales, et suivant l'époque à laquelle je me trouve, je ne vais pas prendre les mêmes particules fondamentales. On pensait, par exemple, que la matière était faite de neutrons et protons, et puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, on a compris que ces neutrons et des protons, eux, étaient faits de quarks. Et on peut toujours se poser la question de savoir, est-ce que ces quantités, ces objets sont des entités fondamentales, ou est-ce qu'il faut que je les remplace par autre chose? Donc vous voyez, c'est ce jeu entre savoir ce qui vient premier, et puis au moment où je vous dis, c'est ça la particule fondamentale, et vous pouvez me demander, mais pourquoi, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle sait? Et finalement, le physicien, lui, n'a pas de réponse à cette question. Donc la seule chose qu'il puisse vraiment faire, c'est d'aller faire toc 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 et de poser la question à un philosophe qui peut-être va l'aider à progresser dans cette démarche. Donc vous voyez, le dialogue entre le physicien et le philosophe est très très important. Ça, je ne vais pas en parler parce que ça va nous emmener trop loin. Et donc, pour moi, ce qui est important dans cette démarche-là, la démarche de la recherche scientifique, c'est la question. Savoir formuler une bonne question, une question à laquelle on peut donner une réponse. Il y a des questions, finalement, qui n'ont pas d'intérêt scientifique parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir en donner de réponse. Et souvent, vous êtes confronté à des gens qui ont des réponses à toutes les choses, des théories qui répondent à toutes les questions. Et en général, vous savez que ce sont des mauvaises théories scientifiques. Parce que, par définition, la théorie scientifique, si elle est bien définie, elle ne va pas pouvoir tout expliquer. Et c'est pas pour cette raison-là que vous allez devoir la rejeter. Ça vous donne une indication de comment l'étendre. Alors, parlons de notre univers. Pour parler de notre univers, il faut commencer par regarder. Tout à l'heure, je vous ai dit, notre relation au ciel est millénaire. Ça, c'est une des premières observations du ciel. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Des phases de la Lune. Quelqu'un d'autre? La première chose, c'est un os. Vous voyez, c'est un zoom sur cette partie-là. Ça, c'est un os. Et sur cet os, alors les archéologues nous disent que ceci, ça représente les phases de la Lune pendant 2 mois et demi. Et c'est un os qui a été trouvé à la grotte Chauvet et qui est daté à moins 34 000 ans. Donc il semblerait, et puis là vous avez des petites indentations, alors on n'est pas trop sûr, mais il y a des conjectures comme quoi ça serait peut-être une sorte de calendrier ou un décompte de jours. Donc vous voyez, on se rend compte que finalement, dès que l'homme est capable de regarder le ciel, il va observer des régularités, des changements de phase, des changements de saison, et qu'à partir de ça, il a prise sur le temps. Et à partir donc, comprendre l'astronomie, c'est aussi capable d'être maîtriser son environnement, puisqu'on va pouvoir à partir de ça, de créer des calendriers, pouvoir utiliser ça pour les récoltes. Donc notre relation au ciel, c'est vraiment quelque chose qui est très très profond dans notre société, et que je pense qu'il faut continuer à cultiver, et donc il faut lever les yeux et regarder le ciel. Donc ça, c'est ce qu'observaient des hommes il y a 30 000 ans, donc on peut le faire aujourd'hui. Regardez le ciel, regardez les phases de la Lune. Est-ce que la Lune est là tout simplement la nuit? Est-ce qu'on la voit parfois le jour? C'est des choses comme ça, on a l'impression de tous bien savoir ça. Ce sont des choses très simples, il faut le faire l'expérience soi-même. Si vous levez vos yeux, vous allez voir le soleil, la Lune, les étoiles, ça c'est évident. Avec un petit télescope, vous allez pouvoir voir des planètes et puis les satellites, les cratères de la Lune. Et si vous avez un grand télescope, vous allez pouvoir voir des milliards de galaxies. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qui est important, c'est que la représentation, l'objet, univers que vous allez vous voir décrire dépend de votre moyen d'observation. Donc il est évident que des gens, il y a deux siècles par exemple, ne décrivaient pas le même univers que nous. Ils décrivaient ce que eux appelaient l'univers, c'était simplement notre système solaire. Aujourd'hui, notre univers, lui, contient des centaines de milliards de galaxies. Mais en fait, même si c'est quelque chose qui vous semble naturel, le mot galaxie, est-ce que vous savez à quand remonte la preuve de l'existence d'une autre galaxie que la nôtre? Est-ce que vous avez une idée de ça? Est-ce que c'est quelque chose de très vieux, de très récent? 1930, qui dit mieux, dans un sens comme dans l'autre? 1960? Alors la date c'est 1924. Jusqu'en 1924, il y avait un grand débat, il y avait des petits sortes de ce qu'on appelle des nébuleuses qu'on voit dans l'hémisphère sud. On se posait la question de savoir si ces nébuleuses étaient à l'intérieur de notre galaxie ou étaient d'autres galaxies. Et en fait, c'est Edwin Hubble qui, en 1924, va prouver que ce sont d'autres galaxies. Donc avant 1924, on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on vous parle beaucoup de l'univers. Moi, j'ai grandi aussi avec Star Wars, donc on voyageait dans la galaxie. Donc tout ça, ça paraissait très proche. Mais il faut se rendre compte que finalement, il y a 90 ans, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies. Donc on a un savoir qui est énorme, avec des grands observatoires, avec des milliards de galaxies, mais aussi un savoir qui est finalement pas si bien digéré que ça, parce qu'il a moins d'un siècle. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, parce que ça veut aussi dire qu'on n'a pas souvent le recul pour vraiment se poser trop de questions sur notre univers. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est observer. Et puis la deuxième chose qu'on va faire, c'est essayer de faire une représentation. Et donc, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai raconté, cette représentation, elle va dépendre de deux choses. Ce que je suis capable d'observer, donc ça va dépendre de mes connaissances en astronomie, en technologie, et de ce que je peux concevoir, parce que je vais faire des représentations. Et ça, ça dépend, eh bien, de la philosophie, beaucoup des mathématiques aussi. Donc, vous voyez comme quoi, faire de la science, c'est aussi être finalement en porte-à-faux avec d'autres sciences, et que, par exemple, la philosophie, c'est très, très important. Moi, je dis souvent aux étudiants qui font de la science, ils n'aiment pas trop la philosophie, parce que quand ils étaient au bac, ça ne marchait pas trop, la philo. On pense qu'on peut mettre les bouquins de philo sous le lit, et en fait, on commence à faire de la science, et il y a un jour, on se rend compte qu'on est obligé de ressortir les bouquins de philosophie. Donc, ça, c'est important pour les jeunes. Même si vous êtes intéressé par les particules élémentaires, les galaxies, les trous noirs ou les cellules, c'est important de continuer à s'intéresser à la philosophie parce que c'est ça qui va vous aider à vraiment bien concevoir les choses. Et comme je vous l'ai dit, on peut à un moment ou à un autre être obligé de changer un modèle, de modèle. Pour un scientifique, ce n'est pas un échec. On a fait une construction, elle marchait bien, on va faire de nouvelles observations, de nouvelles expériences. Eh bien, on peut arriver à une contradiction qui nous demande de changer de ce qu'on appelle de paradigme, d'avoir une nouvelle représentation. Parfois, on n'a pas besoin d'observation, on va faire deux constructions. Il va y avoir une incohérence entre ces deux constructions, et pour lever cette incohérence, on va être capable de créer quelque chose de nouveau. Donc en fait, le scientifique, lui, il est plutôt dans la recherche de l'imperfection de ses constructions, plutôt que d'être en train de convaincre les autres de la perfection de ce qu'il raconte. D'accord ? Donc je n'épilerai pas sur ça, mais c'est un point qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Et là, je vais vous parler de l'univers et du modèle du Big Bang. Alors c'est marrant, parce que le modèle du Big Bang, vous voyez, on sait le jour où ce mot a été utilisé pour la première fois. C'est le 28 mars 1949, c'était à la BBC, il y avait un débat entre Fred Hoyle, qui était un astronome anglais, qui ne croyait pas que l'univers était en expansion, et Georges Lemaître, qui est un chanoine belge, qui est reconnu comme le père du Big Bang, et lui parlait des théories dynamiques de l'univers, et pour se moquer de lui, Fred Hoyle lui a dit « oui, votre Big Bang », et le mot est resté ça, dans la littérature, et donc maintenant tout le monde connaît le Big Bang. Donc vous voyez comme quoi, en voulant se moquer de lui, en voulant le ridiculiser, il lui a donné finalement, il lui a fait toute sa com en lui créant le bon mot. Et ce modèle a été créé dans les années, fin des années 20. Et en fait aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles du Big Bang, parce qu'en 70 ans, ce que nous appelons Big Bang aujourd'hui a très peu à voir avec ce que Georges Lemaître, lui, appelait Big Bang dans les années, fin des années 1920. Parce qu'on a compris beaucoup plus de choses qu'il était capable de, finalement, des questions qu'il ne pouvait pas se poser à l'époque, parce qu'il n'avait pas les observations nécessaires pour cela. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est un jeu. On a deux contraintes. Il faut prendre en compte toutes les lois de la nature qui sont connues, et puis il faut reproduire tous les phénomènes astronomiques connus. Donc voilà, ça c'est la règle du jeu, c'est simple. Vous essayez de faire ça. Parfois, c'est difficile. Hein, les gens, par exemple, pendant depuis l'époque antique jusqu'à Copernic, il va y avoir un débat byzantin pour savoir est-ce qu'on peut construire un système qui est qu'avec des trajectoires circulaires et qui reproduit les observations. Et il va y avoir un débat très 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 ardent là-dessus parce que on n'est pas capable de réconcilier ces deux versions. Alors le premier modèle cosmologique que moi j'adore, c'est celui-ci, c'est celui des iodes. Bon, vous le connaissez celui-là peut-être, on l'apprend quand on est petit. Alors il est très beau ce modèle parce que quand on le voit comme ça, on se dit oh c'est des histoires, c'est de la mythologie. Mais en fait, c'est presque un vrai modèle cosmologique. Ce qui fait un vrai modèle scientifique, il fait des prédictions. Alors, vous voyez, vous avez l'univers ici. Donc, le centre de l'univers, on connaît le centre de l'univers, hein, c'est Delphes. Donc, on sait très bien que si on veut savoir quelque chose de profond sur l'univers, il faut aller à Delphes. C'est là où, vous pouvez vous localiser par rapport au centre de l'univers. C'est un univers qui a un bord, qui est limité. Et puis, ce qu'on sait, c'est que si on monte à l'Olympe, on lâche une enclume. Alors on dit une enclume, je ne sais pas si ça marche avec un autre objet, mais vous montez à l'Olympe avec une enclume, vous la lâchez, il faut 9 jours pour que l'enclume arrive sur Terre, et puis 9 jours pour qu'elle aille dans le Tartare. Donc si vous faites l'expérience, si vous êtes capable de faire l'expérience, vous pouvez montrer que ce modèle est falsifiable, puisqu'il y a une prédiction qui est claire. Bon, ceci c'est un peu une plaisanterie, mais ça vous montre que finalement ce modèle, il a quelque chose aussi d'une grande vertu, c'est qu'il représente l'environnement de ce que les gens connaissaient à l'époque, là où ils étaient capables de voyager. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous observons notre univers depuis la Terre, nous ne voyons qu'une petite partie de l'univers, on ne peut pas voir l'univers dans son ensemble, surtout s'il est infini. Et dans ce cas-là, nous, ce que nous faisons, c'est d'à partir d'observations qui sont assez locales, de faire une représentation globale de l'univers. Donc quelque part, vous voyez l'ambition du projet, parce qu'il va falloir se poser la question de savoir... Est-ce que notre environnement local de l'univers, tout ce que je suis capable d'observer, est représentatif de l'univers dans son ensemble? Et ça, c'est une question qui est très très difficile. Donc vous voyez ici ce modèle, il faut l'enseigner à l'école parce qu'il y a plein de choses. Alors, la cosmologie est particulière parce que on n'a qu'un seul univers. J'observe notre univers depuis où? Depuis la Terre, donc on observe ça depuis un simple point. Et ça veut dire que même si j'utilise les lois de la nature, il y a une dimension historique. Ce que je fais... L'univers a une histoire, dans le modèle du Big Bang, parce que l'univers se dilate, et donc je vais devoir reconstruire cette histoire-là. Et dans les méthodes de logique, en science, il y a différents types de méthodes. Il y a la déduction, si vous connaissez des hypothèses, vous utilisez la logique et vous en déduisez quelque chose. Il y a l'induction, c'est par exemple l'induction, c'est le soleil se lève aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 100 ans, il se lève. Et donc vous en déduisez que le soleil se lève toujours. Et vous n'avez pas fait de preuve. Vous avez utilisé l'induction pour vous dire que c'est tellement régulier que le soleil va continuer à se lever. Et vous n'avez pas fait la preuve que ça se lèverait toujours. Et l'abduction, alors ça c'est l'inverse, c'est que vous allez essayer de reconstruire une histoire, cette histoire étant la plus probable par rapport à tout ce que vous observez. Et donc en cosmologie, nous ce qu'on fait, c'est ce type de raisonnement scientifique. Et donc on reconstruit l'histoire la plus probable, et on doit vous donner cette histoire-là, vous dire voilà, l'univers s'est fait comme ça, les galaxies sont formées comme ci, ainsi de suite. Mais nous, on doit aussi être capable de quantifier la crédibilité de cette construction. Et ça c'est très important parce qu'on a plusieurs modèles cosmologiques qui sont en compétition, et suivant les observations que l'on a, eh bien, on peut montrer qu'un modèle est plus crédible qu'un autre. Et surtout, ce qui est important, on va aussi utiliser le fait qu'on va utiliser différents types d'observations, et c'est la cohérence de l'explication de plusieurs faits qui va permettre, finalement, de nous convaincre que c'est la bonne explication. Bon, voilà. Alors, si je prends notre modèle, qu'est-ce qu'on sait? Donc, il faut que je dise sur quoi qu'est-ce que j'utilise en physique et qu'est-ce que je veux expliquer. Alors, la physique est là. Je vais prendre toutes les lois de la nature qui sont connues et que j'ai testées en accélérateur de particules dans le système solaire, parce que ça, j'ai fait des expériences. Et donc, il y a différentes forces dans la nature. Il y a 4 forces. Donc, la première, c'est la gravitation. Et la gravitation est décrite par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, une théorie qui a été formulée en 1915. Au mois de novembre, on fêtera le centenaire. Il faudra avoir une pensée pour Albert Einstein en disant que ce jour-là, il a été heureux parce qu'il a compris... Il a compris la gravitation après presque 10 ans de travail. Et puis, il y a les autres interactions, l'interaction électromagnétique, et puis celles qui sont au niveau du noyau, ce qu'on appelle les interactions nucléaires. Il y en a de deux types, fortes et faibles. Donc ça, la gravitation est décrite par la relativité, et pour la matière, on a un modèle. Alors ça, c'est des symboles, ça ne veut rien dire pour vous, mais ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, et c'est le modèle qui est testé au LHC. Vous avez entendu parler du LHC, parce qu'il y a 2 ans, on a découvert ce fameux boson de Higgs, qui était la dernière brique manquante de ce modèle. Donc aujourd'hui, toutes les particules connues, toutes les interactions ont été mesurées en accélérateur de particules, et donc c'est le modèle qu'on utilise pour décrire la matière. Et puis on va utiliser tous les phénomènes astrophysiques. Donc vous voyez, cette construction, elle va reposer, en fait, si on nettoie tout, sur 4 hypothèses. 2 hypothèses sur la physique, une description de la théorie de la gravitation, on va utiliser la relativité générale, une sur la matière, et déjà là, il y a un problème, parce que on va se rendre compte, quand on fait ça, qu'il faut utiliser de la matière que nous ne connaissons pas en laboratoire, ce qu'on appelle la matière noire froide, et puis l'énergie sombre ou la constante cosmologique. Ça, c'est des choses que la cosmologie, les interprétations des observations nous disent qu'elle doit être là, mais que nous n'avons pas de, disons, que nous ne pouvons pas mettre en évidence en accélérateur de particules. Donc là, quelque part, si c'est vrai, si la cosmologie est vraie, elle nous donne déjà un signe du fait que la physique ne peut pas s'arrêter à la matière que nous connaissons aujourd'hui dans les accélérateurs de particules. Donc il y a de la matière qui existe, qu'il va falloir découvrir. Mais ça, c'est pas suffisant, parce que si je prends simplement ces forces de la nature, que j'en fais un modèle, eh bien les équations sont inextricables. C'est pas possible. C'est des dizaines d'équations qui sont non linéaires. Bon, il y a des mathématiciens dans la salle? Voilà, donc c'est des équations, je lui dis à lui, comme ça, je me fais plaisir. Ben quand même, attendez, chacun un peu. Donc c'est des équations aux dérivées partielles, non linéaires, couplées, ça vous va? Donc c'est des choses, en fait, on ne sait pas les résoudre. On n'a pas de façon générique de les résoudre. Donc plutôt que de les résoudre, on va essayer de trouver une solution qui va être une solution approchée. On va essayer de trouver l'équivalent de la Terre est ronde. D'accord? C'est ça qu'on va essayer de faire. Et donc, pour faire ça, on va essayer de faire une hypothèse de symétrie, et on va utiliser un principe que je vais décrire après, qui s'appelle le principe copernicien. Et puis on se rend compte que dans ces modèles-là, il y a encore des structures qui sont libres sur les structures globales, donc c'est ce qu'on appelle la topologie, savoir si l'univers est fini ou infini. Mais ce qui est important, c'est qu'une conséquence immédiate de ces modèles-là, c'est que l'univers est en expansion. Donc l'espace se dilate. D'accord? Alors pas à Paris, parce que vous avez eu le prix du mètre carré, c'est lui qui se dilate, c'est pas les mètres carrés, mais sur des échelles qui sont plus grandes que la distance entre, disons, typiquement 2 galaxies. Donc si je fais la représentation de l'univers et que je lisse la distribution de matière sur ces échelles plus grandes que ça, eh bien l'espace se dilate. Et ça, c'est quelque chose que l'on a mis en évidence dans les fin des années 20 et qui est prouvé aujourd'hui, qui est une preuve aussi de la validité de la théorie de la relativité générale. Ah voilà, j'avais marqué ça, mais on s'en fout, c'est bon. Alors, comment se rendre compte que la Terre est ronde? On a dit tout à l'heure, Pythagore, c'est ça que j'avais dit? Il a vu l'ombre de la Terre sur la Lune, donc il a vu que c'était toujours un disque. Donc il va falloir regarder, parce que si je veux savoir un peu à quoi ressemble l'univers, si je reste dans ma pièce, je vais pas aller très loin. Donc je regarde. Alors qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça ici, vous voyez, chaque petit point c'est une radiogalaxie. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il les met sur un disque? Donc quand je regarde une sphère autour de moi, d'accord, j'ai une direction, d'accord, chaque fois je peux prendre une direction. Et vous voyez, pour une direction, il y a deux points. Imaginons, je prends cette direction de référence, je vous dis de combien il faut tourner comme ça, et de combien il faut tourner comme ça. Donc c'est deux nombres. Vous êtes d'accord? Une direction dans le ciel, c'est deux nombres. Donc quand j'ai deux nombres, je peux tout mettre à l'intérieur d'un disque. Donc chaque point à l'intérieur du disque, c'est une direction dans le ciel. Donc vous voyez, là au centre, il n'y en a pas, c'est simplement un problème du télescope qui ne pouvait pas observer cette région du ciel. Mais là, vous avez des galaxies qui sont sur toute la voûte céleste, et vous vous rendez compte qu'elles sont réparties de façon uniforme. On ne peut pas dire qu'il y a plus de galaxies par là que par là. Je ne peux pas, à partir de cette distribution de points, définir une direction privilégiée dans l'univers. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un petit truc ici, mais bon, allez. Quand vous voyez ça, il y a un petit trou ici, mais les petits trous, c'est souvent des problèmes observationnels. Il faut pas se... C'est plus ou moins ce qu'on appelle isotrope. Isotrope, ça veut dire le même dans toutes les directions. Donc l'univers semble isotrope, que je regarde là ou là, il semble avoir les mêmes propriétés. Alors on a une deuxième preuve de ça. Ça, c'est une image, vous avez vu une image similaire dans les journaux avec la carte du satellite Planck. C'est un fond diffus de radiation, de rayonnement, qui a été émis 300 000 ans après le Big Bang, qui a une température de 2,7 Kelvin, et là, vous voyez des petites fluctuations de l'ordre du micro-Kelvin, donc un facteur sur 100 000, un peu plus froid, un peu plus chaud. Et puis, si je regarde ces fluctuations de température, pareil, chaque direction, chaque point, c'est une direction dans le ciel, et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une distribution de température qui est plus ou moins uniforme sur le ciel? Eh bien, c'est le cas. Il n'y a pas, à partir de cette carte, je ne peux pas dire, voilà le centre de l'univers, voilà la direction privilégiée. Ça, c'est deux exemples. On a plein d'autres observations qui tendent à nous montrer que, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, l'univers est le même. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de construire un univers qui est isotrope. D'accord? Alors, faisons ça. Ben voilà un univers qui est isotrope. Alors, on va enlever une dimension et on va. Vous avez déjà été dans des archipels où il y a des îles. D'accord? Imaginez, vous êtes dans un archipel. Vous êtes sur une île et vous n'avez pas de bateau. Et vous voulez faire une carte de votre archipel. Donc vous regardez, vous voyez qu'il y a une île là, il y a une île là, il y a une île là, il y a une île là, puis vous faites un petit dessin, comme ça vous savez pas trop à quelle distance elle se trouve. Mais vous rendez compte que je regarde par là, je regarde par là, il y a toujours autant d'îles dans toutes les directions. Donc l'archipel semble isotrope autour de moi. Enfin, la première construction, vous pouvez dire, c'est voilà la carte de mon... Ah non, je veux pas celui-là. Voilà la carte de mon archipel, je suis ici, et puis il y a en gros des îles qui forment comme des cercles autour de moi. Parce que si je regarde par là... Si je regarde par là, eh bien j'ai toujours à peu près autant de galaxies, d'îles dans les différentes directions. Mais quelqu'un qui habiterait dans une autre île, sur cette île-là, est-ce que pour lui, l'archipel semble isotrope? Alors oui, lève la main. Oui? N'ayez pas peur, parce qu'il n'y a pas de note à la fin, donc c'est bon. Hein? D'accord? Et les autres, est-ce que ça semble anisotrope? Est-ce que lui, il va pouvoir dire qu'il y a une direction privilégiée? D'accord. Donc vous vous rendez bien compte, s'il est là, s'il regarde dans cette direction, il voit plus de galaxies, puis s'il voit par là, il a l'impression que c'est plutôt vide. Donc à partir de ça, il va pouvoir, avec une méthode, s'il est un peu intelligent, avec un peu de géométrie, il va pouvoir dire le centre de l'archipel, c'est par là. Donc ça, c'est un univers dans lequel il y a un point qui est privilégié, c'est lui, c'est l'observateur qui serait au centre de l'archipel, au centre de l'univers. D'accord. Pardon? Lui? Ah non, parce que P, lui, il voit, tu vois, ici, là, ils sont sur un cercle. Ici, ils sont pas sur un cercle, là, il y a plus de galaxies qui sont par là. S'il prend un petit cercle autour de lui, il voit qu'il y en a plus dans cette région-là que dans cette région-là. Non, là, c'est la carte de mon archipel, là, tu vois, je fais le marin de base, quoi. Non, il n'y a pas le marin, parce que le type qui est... Voilà. Et donc... S'il regarde, avec la construction, il peut arriver à se dire qu'il y a un centre. Donc il y a quelqu'un qui est privilégié dans cet univers-là, c'est celui qui est au centre. Ça, quand les gens Donc c'est les premières idées qu'ils ont eues et ils se sont dit mais ça c'est pas bien parce que on avait mis la Terre au centre du système solaire, on s'est planté. On avait mis le système solaire au centre de la galaxie, on s'est planté. Est-ce qu'on va mettre la galaxie au centre de l'univers ? Non, mais on pourrait. La question, c'est un choix philosophique. Est-ce que nous sommes particuliers ou est-ce que notre galaxie, c'est une parmi d'autres ? Et est-ce que finalement la vie pourrait apparaître dans d'autres galaxies ? Et ce que les chercheurs se sont dit, c'est que finalement, si je veux décrire l'univers, il faut que j'essaye de prendre de la distance par rapport au fait que ça soit vraiment moi qui l'observe. On va dire que je veux une galaxie qui a typiquement des étoiles, des planètes, et qu'il n'y a pas de raison que nous soyons exactement au centre de l'univers. On pourrait être n'importe où dans cet univers. Alors, est-ce que c'est possible ? Les gens se sont rendus compte que oui. Si on prend une distribution d'îles qui est comme ça, qui est complètement homogène, ben vous voyez, si je prends le point P, autour de lui, il y a à peu près autant de galaxies qui sont comme ça, puis le point Q, qui sont comme ça. D'accord ? Donc, on va faire des modèles d'univers dans lesquels les galaxies sont distribuées de façon à peu près homogène. Voilà. Et ça, c'est une conséquence de l'observation, mais ce n'est pas une preuve. Quelque part, il y a un moment, il va falloir tester cette hypothèse-là, voir si on est capable de la tester. Donc on va construire des modèles mathématiques qui sont plutôt comme ça que comme ça. Alors ça, c'est ce qu'ont fait ces deux messieurs-là, Georges Lemaître et Alexandre Freeman, et donc ils ont postulé, c'est ce qu'on appelle le principe copernicien, nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. Alors on appelle ça un principe parce qu'on n'a pas de preuve. Vous savez, Einstein disait que quand on n'a pas d'idée, on a des principes. Voilà. Non, ben c'était Einstein, alors il se pouvait. Mais une des parties de la cosmologie contemporaine, c'est d'essayer de prouver cette hypothèse-là. C'est-à-dire, maintenant qu'on est capable de mesurer la position de beaucoup de galaxies, de beaucoup d'objets, d'essayer de savoir si l'univers, en moyenne, est homogène et isotrope. Alors, une conséquence de ces modèles homogènes et isotropes, c'est que l'univers est en expansion, il se dilate. Et à partir de la loi d'expansion de l'univers, eh bien, on peut mesurer le contenu en matière qu'il y a dans notre univers. On peut dire, il y a tant de matière de protons, de neutrons, de radiations, de neutrinos. On est capable de faire ça. C'est un peu compliqué. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours dans les laboratoires, et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer le contenu, à faire un inventaire de la matière présente dans notre univers. Alors c'est quoi ça ? D'accord ? Non, je ne vais pas vous parler de ça, c'est trop compliqué. Non mais parce que... Faut que je vous parle combien de temps ? C'est-à-dire que moi je peux parler très longtemps, en fait, c'est ça mon problème. En fait, je suis un type bavard. Déjà à l'école, il m'avait dit arrêtez de parler, et... je continue parce que faut qu'on parle ensemble aussi, d'accord ? Mais je vais continuer. Donc ça, ce qui est important, c'est que comme l'univers se dilate, imaginez que vous voyez cette dynamique à l'envers, l'univers. Donc quand je retourne dans le passé, la matière, les galaxies sont de plus en plus compressées les unes des autres. Qu'est-ce qui se passe là quand je prends un gaz que je le compresse ? Qu'est-ce qui lui arrive à ce gaz ? Non, il n'explose pas. Je le compresse. Il chauffe. Hein, vous avez fait la pompe à vélo, ça chauffe. Donc l'univers est de plus en plus chaud. Donc plus je remonte dans le passé, plus la matière est dense et chaude. Il y a un moment où la matière dans l'univers est tellement dense et chaude que je ne peux plus avoir de galaxies, je ne peux plus avoir d'étoiles, je ne peux plus avoir même de matière ordinaire, parce que les électrons, l'énergie du gaz de photons dans cet univers est tellement intense qu'elle arrache les électrons qui sont autour des noyaux. Donc j'ai une matière qui est ionisée. Et ce qui est important c'est que la lumière interagit très fortement avec la matière ionisée. Donc en fait, on ne peut pas voir plus loin que ce moment où l'univers passe de matière ionisée à matière, ce qu'on appelle, transparente. C'est un peu la même chose avec l'eau qui est la vapeur d'eau. Eh bien, elle est dans différents états. Si je regarde un nuage, je peux voir jusqu'à la surface du nuage. Je ne peux pas voir derrière parce que là, l'espace est devenu opaque à cause de la vapeur d'eau du nuage qui est plutôt sous forme de petits cristaux. Et donc, je ne peux pas voir à travers. Donc, en fait, on ne peut pas voir tout l'univers. On peut voir jusqu'à ce moment-là. Et comme la vitesse de la lumière est finie, comme je peux voir simplement depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un temps fini, eh bien le volume d'espace que je peux voir, c'est un volume fini. Donc je ne suis capable d'observer qu'une petite partie finie de l'univers, et c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Et celui-là, eh bien on peut dire plein de choses, on peut dire son diamètre, il a 10 puissance 27 cm, il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies, ça c'est pour ceux qui aiment les chiffres, donc il y a 10 puissance 51 tonnes de matière à l'intérieur, donc si vous voulez compter les atomes, ça fait 5 puissance 10-80, donc il y en a pour tout le monde, hein. Mais on est capable de faire cet inventaire-là. Mais c'est qu'une petite partie de l'univers, et puis au-delà, on imagine que c'est à peu près la même chose. Donc l'image qu'on a aujourd'hui de l'univers, c'est, j'ai mis le temps ici, donc vous voyez, ça serait entre guillemets le Big Bang, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à partir de là, on n'a pas d'observation. Donc ça serait le temps, la température, donc l'univers se dilate et se refroidit, Et puis, nous, ce qu'on sait bien, c'est ce qui se passe entre aujourd'hui, l'univers à 13,7 milliards d'années, et puis typiquement jusqu'à une seconde, on va dire 0,1 centième de seconde après le Big Bang. Sur cette partie de l'univers, donc voyez 0,01 seconde après le Big Bang, jusqu'à 13,7 milliards d'années aujourd'hui, on est capable de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a beaucoup d'observations, on comprend comment les noyaux atomiques se sont formés, on observe le moment où l'univers devient transparent, c'est ce fameux fond diffus cosmologie, on observe la formation des galaxies, on observe les supernovas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc ici, on a quelque chose où la microphysique est connue, et où on a des observations. Donc ça, c'est la partie qui est robuste. Maintenant, si je veux remonter plus loin dans le temps, si je veux aller à des températures plus élevées, eh bien, je vais devoir faire des modèles d'univers primordial. Et là, le problème, c'est que la microphysique devient non maîtrisée. Donc là, je vais faire des extrapolations de ce que je sais. Par exemple, le boson de Higgs. Est-ce que le boson de Higgs, il fait comme ci ou il fait comme ça? Ou est-ce qu'il y a des nouveaux champs scalaires? Il y a plein de modèles. Eh bien, je vais faire des extrapolations. Et ces extrapolations vont me donner une image de l'univers primordial qui peuvent, alors là il y a plein de gros mots, mais est-ce qu'on va avoir des univers multiples, est-ce qu'il faut prendre en compte de la gravitation quantique, est-ce qu'il y a des dimensions supplémentaires, tout ça ce sont des modèles, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire c'est vrai ou c'est faux, parce que souvent on vient de me dire, on me dit est-ce qu'il y a des dimensions supplémentaires, je ne peux pas dire oui ou je ne peux pas dire non, je peux dire dans cette classe de modèles ou dans cette classe de théorie, il y a des dimensions supplémentaires, est-ce qu'il y a plusieurs univers, est-ce qu'on a des univers multiples, ben, dans ces classes de modèles oui et dans ces classes de modèles non, pourquoi? Parce que ce sont les théories qu'on est en train de débattre aujourd'hui dans les laboratoires. Donc, si je suis honnête avec vous, moi j'en ai des préférés pour certaines raisons. Mais je n'ai pas de preuves que ce sont aujourd'hui les bonnes descriptions de l'univers. Donc, au-delà de 0,001 seconde, eh bien, on a plein de modèles qui, certains sont des constructions qui ne sont pas des bonnes constructions, d'autres sont encore en accord et sont débattus par la communauté. Et là, on voit que c'est intéressant parce que finalement, cette partie de l'univers, cette partie de la cosmologie, ça devient comme un laboratoire pour mettre à l'épreuve toutes nos idées sur la physique théorique. Donc là, vous voyez, maintenant, on va utiliser l'univers de façon différente. On va faire des modèles d'univers primordial, et puis on va voir les influences que ça a dans l'univers que l'on est capable d'observer. Et puis certains, ça marche pas, parce qu'ils vont vous dire que les galaxies, elles sont trop distribuées comme ci ou trop comme ça, et ça, ça va pas. Et ça, c'est le travail que l'on fait aujourd'hui en cosmologie théorique, c'est de faire des constructions de ces phases, en particulier la phase d'inflation, parce qu'à partir de ces observations, et en particulier celle du fond diffus cosmologique, eh bien, on peut dire des choses sur ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est ça l'échange entre ce qu'on est capable d'observer, les théories qu'on est capable de faire, et puis à un moment donné, l'extrapolation de ces théories, parce que c'est finalement ça, faire de la recherche. C'est pas juste utiliser ce qu'on sait et vous dire, voilà l'histoire, ça s'arrête comme ça, amen. Non, c'est pas ça. C'est de dire, on va essayer de comprendre encore mieux, d'aller à des plus hautes énergies, et c'est ce qu'on essaye de faire dans les laboratoires. Vous voulez que je m'arrête là ou vous voulez que je continue? Je m'arrête? D'accord, ok. Non mais moi, j'ai dit je suis bavard alors. Ok. Oui. Tu m'arrêtes en fait. Tu me dis... D'accord. Très bien. Alors, donc déjà je voudrais vous convaincre, sans aller trop dans les détails, que c'est un bon modèle. Donc que toutes les prédictions sont là. Donc je vous ai dit, l'univers est en expansion, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, et ça vous voyez, c'est l'article de Hubble 1929, je ne vais pas vous l'expliquer, mais en gros il est capable de mesurer la distance de galaxie et la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous. Donc ça c'est ce que mesurait Hubble, vous voyez, ça va jusqu'à, on ne voit pas trop, mais en fait Hubble il mesurait en gros ce qui va jusque par là. Aujourd'hui c'est ce qu'on mesure avec les supernovas, ça c'est ce que prédit le modèle, la ligne noire, c'est nos observations. Donc on voit que la conséquence de l'expansion de l'univers, elle est vérifiée sur toutes nos observations. Donc l'univers est vraiment en expansion. Ça, c'est le premier point important. Il y a des gens qui ne croient pas à ça, par exemple. Ben, ils ont tort. Ben, c'est vrai, hein. Alors, la deuxième chose, on arrive à comprendre, l'univers est très très chaud au début, il n'y a que des neutrons et des protons. Parce que même faire un noyau, ce n'est pas possible, parce que la radiation a tellement d'énergie que ça casse les noyaux. Alors, on aimerait bien comprendre, parce que ici, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, il y a tout ça. Donc, il faut comprendre d'où ça vient. Et ce qu'on est capable de comprendre, regardez pas les trucs, ça c'est juste des dessins, c'est que on est capable, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, donc la synthèse des nucléos, donc des noyaux, permet de comprendre, donc on va partir d'un neutron et d'un proton, et avec les réactions nucléaires dans un univers qui est en expansion, on va réussir à comprendre comment on forme le deutérium, l'hélium-4, le lithium, le béryllium, et ainsi de suite, on va même juste un petit peu de carbone, d'oxygène et d'azote. Et donc, on va commencer à être capable de comprendre, ça c'est le tableau de Mendeleïev, donc c'est tous les éléments connus aujourd'hui sur Terre. On est capable de comprendre comment simplement avec des protons, donc de l'hydrogène et des neutrons, on est capable de faire de l'hélium, du lithium, du beryllium, du bore, du carbone, de l'azote, jusqu'à l'oxygène, typiquement dans les premières secondes de l'univers, jusqu'à 3 minutes. Et puis ensuite, pour ceux qui suivent, on sait comment ça se fait. On sait maintenant, on a compris aussi le fonctionnement des étoiles, on sait, alors ça c'est une des réactions importantes dans le Soleil qui s'appelle la réaction 3-alpha, donc vous prenez 3 atomes d'hélium et vous en fabriquez un de carbone, vous voyez, 3 fois 4 ça fait 12, en passant par du beryllium 8, le reste c'est de la physique nucléaire compliquée qui n'est pas très intéressante, mais on comprend et on est capable de calculer les abondances de carbone, d'oxygène qui sont faites dans ces étoiles de première génération qu'on appelle les étoiles de population 3. Et puis ainsi de suite, et aujourd'hui on pourrait prendre n'importe quel élément et on pourrait vous expliquer dans quel site cosmologique et astrophysique il a été fait. Pourquoi il y a du nickel, pourquoi il y a du plomb, tout ça, on est capable de l'expliquer. Donc vous voyez, le modèle cosmologique nous permet de comprendre l'origine de tous les éléments, l'origine de la diversité de la matière dans notre univers. Et sans cette diversité de matière, on ne pourrait pas avoir de chimie, on ne pourrait pas avoir même de vie. Imaginez qu'il n'y ait que des neutrons et des protons, vous n'allez pas très, très loin. Hein. Vous ne faites pas des chaînes d'ADN, vous ne faites pas des trucs, vous ne faites pas des cellules et tout ça. Donc, c'est très important d'avoir cette diversité des éléments, et ça, le modèle cosmologique l'explique aujourd'hui. Alors, on voit ce moment où l'univers devient transparent, on le voit. C'est cette carte-là que vous avez eue dans les journaux, la carte donnée par le satellite Planck, il y a 2 ans. Donc, on l'a détectée, on l'a mesurée avec une grande précision. Et surtout, ce que cette carte représente, ce sont des petites fluctuations de température. Alors, pour un gaz, une fluctuation de température, c'est une fluctuation de densité. Et la gravité, elle a tendance, quand il y a des zones de surdensité, eh bien ça attire plus. Les zones de sous-densité, elles vont se vider. Donc c'est ça qui vont être les conditions initiales pour la dynamique gravitationnelle, qui vont faire que les zones de surdensité vont devenir encore plus denses, encore plus denses, encore plus denses. Elles vont former quoi ? Bah, des galaxies. Et que les zones sous-denses vont donner des grands vides dans l'univers. Donc à partir de ces conditions-là, et la dynamique de la gravitation qui est donnée par la théorie de la relativité générale, qu'on connaît très bien, eh bien, on est capable de déterminer la distribution des galaxies dans notre univers. Pourquoi est-ce que les galaxies se mettent sur des filaments? Pourquoi il y a des vides? Et on peut étudier la distribution statistique de ces galaxies et voir qu'elle est compatible avec ce qu'on observe. Et ça, vous voyez, c'est très important parce que ça veut dire que l'on comprend aussi l'origine de ce qu'on appelle les grandes structures, donc des galaxies, des amas de galaxies. Donc, vous voyez, on comprend l'origine des éléments et on comprend aussi l'origine des grandes structures. Et si l'univers n'est pas en expansion, je peux vous dire, ça ne fait pas du tout ce genre d'image. Ça fait quelque chose de beaucoup plus catastrophique. Donc, c'est très important. Donc, c'est un bon modèle. On explique tout ça. Mais on n'a jamais parlé du mot Big Bang. Vous voyez, je n'ai pas besoin de parler du mot Big Bang. Il y a des gens qui parlent singularité, mur de Planck, plein de conneries comme ça, qui ne servent à rien. Parce que ça, on ne l'a jamais observé. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de modèle tout à l'heure. Ce Big Bang, cette singularité, c'est quelque chose qui apparaît dans l'extrapolation du modèle lui-même. Mais comme je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, si j'ai le droit d'extrapoler le modèle jusqu'à là, moi je dors très bien la nuit. D'accord ? Ça, c'est les gens qui vous disent qu'il y a un vrai problème à la nature. En fait, c'est pour vendre des livres. C'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Alors, je ne le répéterai pas, hein, parce que j'ai aussi des amis qui ont des trucs. Moi aussi d'ailleurs. Mais bon. Bon, non, ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas être paniqué par ça. C'est-à-dire que c'est normal. À cette échelle-là, la gravitation ne va plus pouvoir être décrite par la théorie de la relativité générale. Il va falloir probablement passer à une théorie de la gravitation quantique. Et aujourd'hui, on a des théories candidates, mais on sait, dans certaines d'entre elles, qu'on peut éviter cette singularité initiale, mais on n'a pas encore de modèle qui est bien construit. La seule chose donc, que les observations et ce modèle nous disent, c'est que l'univers, celui qu'on observe, il vient d'un état initial qui est très très chaud, très très dense. Alors ça veut dire quoi, équilibre thermodynamique? Ça veut dire qu'en gros, il est partout pareil. Et puis, qu'il se refroidit lentement sous l'effet de l'expansion de l'univers. Ça, si on a compris ça, eh bien, tout le reste en découle. Et c'est ça qui est finalement le grand succès du modèle du Big Bang. Alors, comme je vous l'ai dit, parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse le nom, on a toute cette matière qu'on ne connaît pas, on appelle ça le secteur sombre, la matière noire, la constante cosmologique. Et ça, bien sûr, c'est les sujets de recherche actuels. Ça fait maintenant presque deux ou trois décennies qu'on est confronté avec ça. Et souvent, on nous met ça devant les. Comme un argument, comme quoi on n'a pas bien compris ce qu'on fait, parce qu'on nous dit, mais oui, vous décrivez l'univers, mais seul 4% de la matière est connue, le reste, vous ne savez même pas ce que c'est. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est, qu'est-ce que ça veut dire voir? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire voir? Ah, vous êtes posé déjà la question, ce que ça veut dire voir? Non. Est-ce que vous avez vu Star Wars 4? Oui. Dans Star Wars 4, il y a un moment de vulgarisation scientifique qu'on devrait montrer dans les écoles qui est extraordinaire, parce que peut-être c'est pas le 4, peut-être, non, c'est le 4. Alors c'est, non, c'est le 5 ou le 4. Bref. Vous voyez, je suis plus nul en Star Wars qu'en physique, c'est pas grave. Il y a ce moment où il y a des gens qui vendent, ils créent les comment s'appelle ça, les types blancs là qui sont méchants. Voilà. Excusez-moi, j'ai un trou. Alors voilà, ils veulent savoir où est-ce qu'ils sont créés, et donc ils font une enquête, et ils trouvent que ça doit être un système planétaire, on leur donne les coordonnées du système planétaire dans la galaxie, et donc c'est le 2, mais c'est, donc c'est le 5, parce que je suis de la vieille génération, on commence par le 4. Et donc ils vont dans la truc des Jedi, là, le temple des Jedi, il y a la carte de la galaxie qui est merveilleuse, ils cherchent avec les coordonnées, et il n'y a pas de système planétaire, là, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète. Alors Obi-Wan Kenobi, il regarde, mais c'est un adulte Obi-Wan Kenobi, donc il ne sait pas regarder, il regarde, il ne voit rien. Bon, il y a Yoda, c'est un grand physicien, Yoda, il est là, et il lui dit, il faut regarder. Et il regarde, il ne voit rien. Et là, il y a un petit môme comme ça, l'air de rien, et qui lui comprend, parce qu'il dit, mais en fait, il arrive à lui faire comprendre que si on avait enlevé, s'il n'y avait pas de galaxie là où on dit qu'elle est, on l'avait effacée. Si on l'avait vraiment enlevé, comme la dynamique de du mouvement de toutes les planètes est calculée par un ordinateur, ça aurait tout déréglé. Vous enlevez une planète dans le système solaire, dans 100 000 ans, c'est plus la même chose, parce que l'effet gravitationnel de cet objet-là a disparu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû le laisser mathématiquement, et puis l'enlever au moment où on met le point lumineux. Et donc, ils regardent comme ça, et en fait, ils voient que, à cause des forces gravitationnelles, il doit y avoir un système planétaire à cet endroit. Donc, ils ont découvert de la matière noire, de la matière qui agit gravitationnellement, mais que l'on ne voit pas avec nos yeux. Mais donc le problème, c'est que quand on dit voir, on pense toujours avec nos yeux, parce que nous sommes très anthropocentrés. Mais ça veut dire quoi, voir? Parce que voir, en fait, c'est compliqué quand on peut voir de différentes façons. Ça veut dire se faire une représentation mentale de quelque chose. Je peux entendre quelque chose, je peux voir avec mes yeux, je peux toucher. Et à partir de ça, j'arrive dans mon cerveau à dire, oh, c'est comme ça. Mais en fait, moi, j'y comprends rien, parce que je n'ai rien au cerveau, mais on a quand même, ça paraît louche. Vous comprenez, parce que ça fait plein de petits signaux électriques qui vont faire des trucs dans vos neurones, et en fait, vous savez que là, il y a un ordinateur et qui a écrit ça, et vous êtes capable de lire. C'est une machine extraordinaire. Mais n'empêche que voir, c'est être capable d'interagir avec le système. C'est d'ailleurs de capable de voir si ce système répond. Quelque chose qui n'interagirait pas avec vous, vous seriez incapable de le voir. Il ne réagirait jamais à une stimulation, ou alors il ne vous enverrait aucune information. Comme dans la théorie de la gravitation, toute la matière est couplée à la gravitation, personne ne peut se cacher à la gravitation. En fait, la gravitation vous donne des yeux gravitationnels. Donc on ne peut pas nier que l'on ne voit pas. On ne voit pas avec nos yeux ordinaires, ça gêne les gens, mais on a appris ça en science. On a appris, par exemple, qu'on voyait des galaxies qu'on ne pouvait pas voir avec nos yeux, où on utilisait des infrarouges, des ultraviolets, et on a créé des techniques qui permettent d'augmenter le champ de l'œil visuel. On fait des représentations en fausse couleur. Et ça pose de problème à personne. Si je vous montre une galaxie, je vous dessine une galaxie infrarouge, vous mettez un télescope avec votre œil, vous ne voyez rien à cet endroit-là. Vous mettez un télescope infrarouge, vous faites blablabla, et hop, vous voyez une image de... Donc c'est exactement la même chose. C'est qu'il y a des signaux gravitationnels, de réponse gravitationnelle, qui quand vous les interprétez, vous montrent que là, il doit y avoir de la matière. Donc finalement, c'est exactement la même chose que quand vous utilisez des fausses couleurs en astronomie, ou même quand vous utilisez un microscope pour regarder la matière. Dans ce sens-là, si on disait que cette matière, on ne l'a pas vue, ce serait la même chose de dire que les électrons, en fait, n'existent pas parce que personne n'a vu un électron. Qui a vu un électron? Personne. Donc vous n'avez jamais vu d'électrons, et personne ne doute de l'existence des électrons. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien décrits dans un cadre mathématique qui leur donne sens, et puis qu'à chaque fois que vous dites « le système va répondre comme ça parce qu'il existe un électron », à chaque fois que vous faites une mesure ou une expérience, ça marche comme ça. Et après, ça marche tellement comme ça que vous le croyez et vous créez des microscopes à effet tunnel qui sont basés sur des électrons ou des machins comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose de la science, c'est que la science, l'univers, nos sens nous trompent toujours. On voit le soleil qui tourne autour de nous, il faut quand même beaucoup réfléchir pour se rendre compte que, en fait, non, c'est nous qui tournons et qu'il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais en fait, ils existent. Donc ça aussi, il faut arrêter de juste d'avoir une vision trop anthropocentrique du monde. Bon, voilà. Alors le secteur sombre. Donc ça existe. Alors rapidement, ça c'est des galaxies, ça tourne, il y a des étoiles. On peut mesurer la vitesse avec laquelle les galaxies tournent. Eh bien, s'il n'y avait... Donc, vous pouvez mesurer la vitesse. Et s'il n'y avait pas d'autre matière que celle de la matière lumineuse, vous voyez, il y a beaucoup de matière, il y en a de moins en moins, eh bien, la vitesse des étoiles qui sont loin devrait descendre comme ça. Puis elle atteint 0 à l'infini. Et en fait, c'est pas ce que vous voyez. Vous voyez que c'est un plateau et que ça continue toujours sur un plateau. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que il doit y avoir de la matière, un halo de matière, c'est ce qu'on appelle un halo de matière noire, dans lequel baigne la galaxie. Donc ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, alors c'est quoi ça? Ah, ça, c'est le câble envoyé en 1919 à Monsieur Einstein, vous voyez? Comme quoi, on a vu le fait que Eddington, en 1919, a fait une expérience, il a vu que la lumière des étoiles lointaines était déviée par le Soleil. Donc le champ gravitationnel dévie la lumière. Donc en regardant la forme des objets, on va pouvoir savoir s'il y avait de la lumière sur le chemin. Et c'est ce qu'on fait. Donc voici ici des observations, et vous voyez, alors il faut bien voir. Vous voyez ici, il y a cet arc-là, c'est des galaxies. Ça, c'est une galaxie qui est aussi un peu distordue. Celle-là, elle est un petit peu distordue. Il y en a qui font des petits arclettes ici. Et puis il y en a qui sont un tout petit peu distordues. Pourquoi elles sont distordues pour ça? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de matières que vous ne voyez pas, qui sont la distribution de la matière noire, et on est capable, à partir de la forme de ces objets, de reconstruire la distribution de la matière dans cet amas de galaxies. Et bien, on est capable de le faire aussi dans une partie de notre univers. Voilà ici la distribution de la matière noire reconstruite à partir des observations de l'antigravitationnelle dans un champ de galaxies, qui est le champ Cosmos. Donc aujourd'hui, on a des satellites qui vont être lancés, en particulier le satellite Euclide en 2020, qui vont nous permettre de faire une cartographie de la distribution de la matière noire dans la plupart de notre univers, jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aura en 2020. Et en fait, s'il n'y a pas de matière noire, il faut comprendre pourquoi il y a ces formes-là, et personne n'est capable d'expliquer ça. Alors on peut aussi voir que la matière noire, c'est comme je dis, elle est noire, donc elle n'interagit pas avec la matière ordinaire, parce que sinon on la sentirait. Et bien ça, on le voit. Imaginez que vous avez deux amas de galaxies qui rentrent dedans, comme ça. Alors il y a du gaz et il y a de la matière noire. Le gaz, lui, c'est de la matière ordinaire, donc vous avez une onde de choc, ça va être ralenti. La matière noire, elle n'interagit pas, ça passe comme ça. Donc vous faites deux types d'observations, des observations de l'antigravitationnelle qui vont vous dire où est la matière noire, c'est les blocs bleus qui sont ici, et puis la matière ordinaire qui, elle, a eu l'onde de choc, et elle, comme elle a été freinée, eh ben, elle est là. Et donc vous voyez, vous avez deux types d'observations, une qui est sensible à la matière noire, disons la matière totale, mais c'est surtout la matière noire, c'est ça qui domine, et une qui va vous dire, à partir des observations X, donc des gaz chauds, que le gaz chaud n'est pas là où vous vous attendriez à avoir la majorité de la matière. Donc, il manque de la matière. Et là, vous en faites une carte exacte. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième preuve. Il y en a d'autres, je ne vais pas les passer parce que ça va nous emmener très très loin. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, et je vais pas le dire. Et je vais juste vous laisser sur le problème embêtant. On a un problème, on a un modèle, donc on voit cette matière noire, et aujourd'hui, si on prend des paris, je vous dirais dans 20 ans, avec les observations astrophysiques, avec les tests qu'on a en accélérateur de particules, et les tests de détection directe qu'on a aujourd'hui sur Terre, je dirais d'ici 20 ans, on devrait avoir une bonne idée de ce qu'est cette matière noire. Il y a un autre problème dont je ne vous ai pas parlé, c'est le fait que l'expansion de l'univers aujourd'hui est en accélération, et dans ce cadre-là, il faut un type de matière dans l'univers qui est un peu bizarre, qui a une pression négative. Alors ça pose un problème. Il y a un type de ce type de matière qui est ce qu'on appelle la constante cosmologique, mais ça pose un autre problème, qui est le problème de la compatibilité entre la théorie de la gravitation, qui est une théorie classique, et les théories des forces fondamentales, qui sont des théories quantiques. Et en théorie quantique, le vide quantique lui-même, donc l'état de plus basse énergie d'un système quantique, a toujours une énergie finie. Et comme il a une énergie finie, comme en gravitation, toute énergie gravite, ce vide quantique doit graviter. Et le problème, c'est que ça gravite tellement que l'univers, il devrait être en expansion, mais depuis très très longtemps. Quand l'univers est en expansion, en fait, les galaxies ne peuvent pas se former. Parce qu'en fait, la matière en fait, s'éloigne tellement rapidement que les forces gravitationnelles n'ont pas la possibilité de les regrouper. Et donc, aujourd'hui, on a deux problèmes. C'est de comprendre pourquoi il y a un univers aussi grand que le nôtre, donc pourquoi est-ce qu'on a une constante cosmologique qui est aussi petite, alors que la mécanique quantique nous dit qu'elle devrait être très très grande. Donc ça, on ne sait pas. Et puis l'autre, ça nous paraît évident, mais c'est très bizarre de se dire qu'il y a des gros objets dans l'univers. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on a des particules élémentaires, des neutrons, des protons, mais je mets un proton, deux protons, trois protons, j'en mets beaucoup, par exemple, je fais un moi, c'est beaucoup de protons et de neutrons, d'accord? Je fais une planète, c'est beaucoup de neutrons et de protons. Pourquoi est-ce que ce tas de protons et neutrons ne s'effondre pas gravitationnellement pour donner un trou noir? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou pas? Alors a priori, si on regarde la raison pour laquelle c'est le cas, c'est dû au fait que la force gravitationnelle est très très faible. D'accord ? Elle est très très petite par rapport aux forces électrostatiques ou aux forces nucléaires. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre beaucoup de matière avant de s'effondrer. Mais ça, aujourd'hui, de comprendre pourquoi la force de gravitation est si faible par rapport aux autres interactions, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. Ça revient, parmi les constantes de la nature, à faire un réglage assez fin, minutieux, entre différentes constantes de la nature. Et donc là, on est assez gêné, parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'univers est grand et pourquoi il contient des gros objets. Et ça, c'est vraiment problématique, et c'est réglé à une question de physique fondamentale de différents nombres, de constantes de la nature qui sont ajustées très finement. Et aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. Alors vous imaginez bien que devant un problème comme ça, il y a deux types d'attitudes. On a des gens qui nous disent, c'est évident, l'univers a été fait pour qu'il y ait des grosses choses dans un bel univers, qu'il y ait des gens intelligents qui puissent comprendre la beauté de la création de l'univers. On a le droit de dire ça. Et puis il y a des gens qui vous disent, il va falloir peut-être chercher un peu plus loin. Et c'est là où on arrive à des théories un peu plus compliquées dans lesquelles on ne peut plus se satisfaire d'avoir un seul univers et dans lequel on doit vivre avec une multitude d'univers. Parce que dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que tout ce qui est possible est réalisable, c'est ce que nous apprend la mécanique quantique. Tout ce qui est possible par les lois de la nature est réalisé et est réalisable, réalisé. Et donc dans ce cadre-là, il y aurait une multitude d'univers, et dans certains, ces coïncidences n'existeraient pas, il n'y aurait rien. Et comme il n'y a rien, il n'y a pas de gens qui les étudient, donc vous voyez bien la tautologie, il n'y a que dans les endroits où ces conditions-là sont satisfaites qu'il y a potentiellement des observateurs qui étudient ces univers-là. Donc l'observateur ne devrait pas être surpris d'observer ce qu'il observe, puisque ailleurs c'est pas possible, il n'y a pas d'observateur. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Et puis, donc, et c'est ce qu'on appelle en science un principe de biais observationnel. Et donc ça, c'est une deuxième alternative. Mais vous voyez, là, j'ai deux possibilités, mais je suis incapable de vous dire laquelle est la bonne. Et ça, c'est encore un sujet de recherche qui est très actif, d'essayer de voir, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire des modèles qui expliquent ces deux grands problèmes. On a expliqué le détail, mais finalement pas l'essentiel. L'existence d'un grand univers qui contient des grands objets. Et puis, bien sûr, je vous ai dit un univers en expansion qui a 13,7 milliards d'années. En général, quand on dit 13,7 milliards d'années, ça veut bien dire qu'on compte à partir de quelque chose. D'accord ? Et je vous ai dit, il faut toujours demander pourquoi. Mais pourquoi et qu'est-ce qu'il y avait avant l'endroit où ça... Donc voilà. Donc la question de l'origine. Et ces idées-là permettent aussi d'aborder la question de l'origine. On pourra peut-être en discuter. Donc ça, c'est pour vous dire, et je m'arrête là, ensuite on discute tous ensemble, qu'on a un modèle cosmologique qui repose sur les lois de la nature qui sont vérifiées localement ici, en accélérateur et tout ça, et que ce modèle est très très puissant parce qu'il nous permet de comprendre énormément de choses sur notre univers. Il nous a permis de comprendre l'origine de la matière, l'origine des galaxies, de comprendre pourquoi comment ces structures se forment, et qu'aujourd'hui, il nous laisse avec des questions qui sont essentielles, mais qui sont surtout des questions de physique théorique. Et que c'est ça qui va attirer la recherche des années à venir, et en particulier d'essayer de comprendre cette matière noire, cette énergie sombre, qu'est-ce que c'est ? Parce que les découvrir, ça peut nous ouvrir tout un nouveau pan de la réalité. Si vous voyez qu'il y a cette matière noire et qu'il y en a 20% et qu'elle est partout autour de nous, eh bien ça va nous apprendre quelque chose. Ça veut dire que notre modèle de physique des particules n'est pas final, il va falloir l'étendre, et peut-être que dedans, il y a des nouvelles sources d'énergie, il y a des choses potentiellement utiles pour nous. Donc maintenant, je vous laisse travailler avec des questions. Merci.
On va peut-être laisser descendre ceux qui veulent y aller, mais on va quand même pas traîner sur les questions.
Donc justement sur l'histoire de la matière noire et de sur l'histoire de la matière noire et de l'énergie sombre, j'ai plusieurs réflexions parce que l'idée là, j'avais assisté à ce que Étienne Klein avait fait avant, donc qui expliquait que la matière sombre et l'énergie sombre, ça vient de l'idée que on a besoin de créer ça pour maintenir le modèle représentatif qu'on a actuellement, et que donc on essaie de déduire ça, et que limite si on arrive à le prouver, ce serait bien de le prouver pour maintenir le modèle en place, et que si on n'arrive pas à le prouver, c'est-à-dire qu'il faudrait construire un autre modèle représentatif. Et deuxième chose, on parle de matière et d'énergie, mais c'est déjà en gros faire une hypothèse en parlant de matière et d'énergie. Est-ce que ça pourrait pas être effectivement quelque chose qu'on connaît pas du tout, qui serait ni de l'énergie, ni de la matière, ni du vide en fait, mais autre chose en fait quoi.
C'est des bonnes questions. Vous avez trouvé. Bon, Étienne, c'est un bon copain, mais il fait trop de philosophie, il faut qu'il arrête un peu parce que. Le problème, c'est qu'on en parle. dans les équations, c'est très clair. Je m'en fous de savoir si ça s'appelle la matière ou l'énergie. Dans les mathématiquement, je sais des choses dont j'ai besoin. Donc après, le fait qu'on appelle ça matière ou énergie, c'est que les gens, ils veulent en parler, ils veulent que, voilà, vous donner des intuitions. Et souvent, c'est pas très très bien. Alors, la première chose, c'est légitime de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des épicycles pour sauver notre construction? D'accord? Et ça, c'est vrai que c'est la première question à se poser. Et je dirais que, on peut penser ça, mais en fait que le travail qui a été fait depuis un quart de siècle nous montre que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est qu'à partir du moment où on s'est rendu compte que, avec les hypothèses que j'ai présentées, la construction qui en découlait, qui est là finalement une construction technique dans laquelle on n'a plus trop de liberté, on arrive avec la nécessité d'avoir ce type de matière pour expliquer les observations, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce que l'on travaille avec les bonnes hypothèses? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la théorie de la relativité générale pour décrire l'univers à des grandes distances? Est-ce que le principe copernicien est un bon principe? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a fait cette liste, et en fait, pour la plupart de ces hypothèses, aujourd'hui, on a été capable de créer des tests observationnels pour tester la validité de ces hypothèses-là. C'est en 2001, avec Francis Verneau, un des premiers tests de la théorie de la relativité générale aux échelles astrophysiques. Ça, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. C'est vrai qu'on pouvait dire cette extrapolation, peut-être que c'est une mauvaise extrapolation. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on est capable de voir, c'est que ces quatre hypothèses, si on les met à l'épreuve de l'observation, en étant un peu subtil, eh bien, pour l'instant, on ne voit aucune déviation. Donc, on est dans une situation où on a un modèle qui repose sur des hypothèses, on s'est posé la question de la validité de ces hypothèses, et il reste toujours ce... Donc ça, on n'a pas trouvé de faille. Parce que bien sûr, les gens se sont dit, est-ce que ça suffit de rajouter de la matière comme ça? Non, on peut changer la gravité, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai que dans les modèles au sens très large de ce qu'ils appellent énergie sombre, matière noire, il y a des gens qui vont vous dire, c'est des théories type monde, on change la gravitation, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, c'est beaucoup plus radical que ça, c'est-à-dire que, un, les hypothèses, on a aujourd'hui, elles sont vérifiées avec une grande sensibilité, et on a des expériences qui vont nous permettre d'améliorer en fait les thèses de toutes ces hypothèses-là. Donc d'ici, 10 ans, si vraiment on s'est planté sur la théorie de la relativité générale aux échelles astrophysiques, ça c'est quelque chose qu'on devrait voir, avec en particulier des satellites comme Euclide. Le deuxième chose, ça j'en ai débattu mais plein de fois avec Étienne, je pense qu'il y a une vision trop newtonienne du monde. Chez Newton, le monde est simple, il y a l'espace, il y a le temps, il y a la matière et il y a les forces. Les forces agissent sur la matière, qui fait que la matière bouge, et puis c'est bon. Dans la théorie moderne de la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on travaille avec des théories qui sont des théories des champs. Donc c'est ce qui vit dans l'espace-temps, ce sont des champs. Et ces champs, on peut les voir comme matière, mais on peut aussi les voir comme interaction. Par exemple, le photon, c'est la particule de lumière, mais le photon, c'est aussi le quanta d'interaction électromagnétique. Donc les gens qui disent on n'a pas besoin de secteur sombre parce qu'on modifie la gravitation. Ça, c'est une vision newtonienne, c'est-à-dire j'ai une formule pour la force, je la change. Mais en fait, c'est pas vrai. Si on fait ça, on ajoute des nouveaux degrés de liberté, donc en fait des nouveaux champs, donc de la nouvelle matière de toute façon dans le modèle. Et donc ce que le modèle nous dit, ce que la matière noire nous révèle aujourd'hui, c'est que avec la physique telle que l'on a aujourd'hui, on ne peut pas reproduire l'univers sans ajouter de nouveaux degrés de liberté, donc une nouvelle composante. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que il faut faire très attention à la façon dont on utilise ces mots, parce que je sais que souvent les gens ils ont l'impression qu'il suffit de prendre Newton et de lui faire comme ça, c'est 1 sur R2, on est 1, R2 plus epsilon. Alors, chez Newton, on peut le faire. En relativité générale, on peut pas le faire, parce que ça veut dire rajouter des structures mathématiques qui sont très très lourdes et qui vont avoir d'autres implications. Et ces théories-là, c'est des théories hautement mathématiques, et donc il y a pas la liberté qu'on avait dans les théories du 18e siècle, où on peut changer les forces un petit peu de façon indépendante. Et ça, je crois que c'est pas passé encore au dehors du cercle des spécialistes, ce niveau de technicité en fait des théories des champs. Voilà.
Oui, c'est une question qui peut paraître un peu triviale, mais on parle d'un univers qui est très très grand et qui est en expansion. Donc ma question c'est, s'il est en expansion, c'est qu'il avait une taille plus petite à un moment donné.
C'est une bonne question. Elle n'est pas triviale du tout. Mais il y a plein de façons d'y répondre. Donc vous, l'image que vous avez, on va voir si c'est bien ça que vous avez en tête, c'est de se dire j'ai quelque chose qui se dilate Donc il est clair que sa taille doit augmenter avec le temps. Bon, maintenant, si l'univers est infini, il peut se dilater autant qu'il veut, il y a autant de place qu'on veut dans l'infini. Le problème, c'est que les notions d'infini, dès qu'on veut en parler, on est un petit peu en porte-à-faux par rapport à nos intuitions. Est-ce que vous connaissez l'histoire que David Hilbert, l'hôtel de Monsieur Hilbert, vous ne connaissez pas l'hôtel de Monsieur Hilbert ? Donc, il voulait expliquer un petit peu la notion d'infini et se rendre compte que tous les raisonnements qu'on avait étaient contre-intuitifs dès qu'on impliquait l'infini dans ces discussions-là. Donc, il avait imaginé un hôtel avec un nombre de chambres infinies. Donc, la chambre 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup plus 1, et ainsi de suite. Et puis, dans la chambre 1, il y a Monsieur 1 qui habite, dans la chambre 2, il y a Monsieur 2 qui arrive, et ainsi de suite. D'accord ? Bon. Jusqu'à là, tout va bien. Et il y a un jour, il y a Monsieur 0 qui arrive. Donc, à l'hôtel, il voudrait une chambre. Donc, Madame Hilbert, qui n'est pas mathématicienne, lui dit, je suis désolé, il n'y a pas de chambre. Monsieur Hilbert lui dit, non, on va faire de la place. Il dit, c'est simple, on va demander à Monsieur 1 d'aller dans la chambre 2, Monsieur 2 dans la chambre 2, Monsieur 2 dans la chambre 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et 0 va aller dans la chambre de Monsieur 1. D'accord ? L'hôtel qui était infini était plein, mais il restait encore de la place, donc on a pu étendre un petit peu. Jusqu'à là, ça va. Une semaine plus tard, c'est plus compliqué parce que il y a un nombre infini de nouveaux pensionnaires qui arrivent, qui sont tous les nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Alors là, Madame Hilbert est catastrophée. Bon, faire rentrer une personne de plus en séron, on a réussi. Une infinité, on est déjà plein. Alors, Monsieur Hilbert réfléchit. Non, en fait, il n'y a pas de problème. Je vais demander à Monsieur 1 d'aller dans la chambre 2, à Monsieur 2 d'aller dans la chambre 4, à Monsieur 3 d'aller dans la chambre 6, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, les chambres 1, 3, 5, 7, 9 vont être libres. Et donc, il a pu caser ce nombre infini de visiteurs supplémentaires alors que l'hôtel infini était déjà plein. Vous voyez, avec l'infini, quand il n'y a plus de place, il y en a encore. D'accord ? Donc, ça, c'est problématique. Donc, vous allez me dire, c'est un truc de maths, mais c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un espace, l'espace se dilate lui-même, et il occupe un espace infini, et il continue à occuper un espace infini. Ce qui est important, c'est que si je prends deux points au repos dans cet espace, eh bien, ils s'éloignent l'un de l'autre, un petit peu comme si je prenais une toile élastique infinie qui s'étirait. Mais il n'y a pas de problème avec le fait qu'on a plus d'infini avant qu'après. Voilà. Et ça, c'est une prédiction de la relativité générale. Et vous voyez, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Avant Einstein, on ne pouvait pas penser ce genre d'hypothèse, de représentation pour notre univers.
Retour sur l'énergie sombre, la matière noire. Donc, vous avez montré qu'on peut la représenter. C'est grâce à quoi qu'on la voit ? C'est des infrarouges, c'est des électromagnétiques. Enfin, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de la voir ?
Donc aujourd'hui, la matière noire, on ne la voit que par ses effets gravitationnels. D'accord ? Donc, toute matière crée un champ gravitationnel et toute matière répond au champ gravitationnel ambiant. Donc, imagine que tu vois ici une étoile et puis tu as autour de cette étoile une planète qui tourne. On peut calculer la vitesse, donc on peut mesurer sa vitesse, d'accord ? Et puis en physique ordinaire, eh bien cette vitesse, elle est reliée, c'est les lois de Kepler, à la masse de l'objet qui est centrale. D'accord ? Donc si je prends une planète ici, elle a une certaine vitesse. Si je la prends plus loin, la vitesse est plus faible. Et puis ici, elle est encore plus faible. D'accord ? Parce que cette planète, elle répond au champ gravitationnel de cette étoile. Si maintenant, je me déplace de plus en plus loin et que l'étoile, eh bien, elle a une vitesse qui est toujours la même, par exemple, eh bien, je me dis, mais c'est bizarre, parce que là, la vitesse est trop grande, elle ne devrait pas rester à tourner autour, elle devrait s'en aller, parce que sa vitesse est trop grande et la gravitation ne peut pas la garder en trajectoire circulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait de la matière quelque part. Et donc, je peux, à partir d'observations de la vitesse des étoiles, donc un profil de vitesse, recréer la distribution de matière qui manque par rapport à la matière visible que je peux voir, et donc reconstruire le profil de densité. Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que cette matière, dans la théorie de la relativité générale, elle va influencer sur la géométrie de l'espace-temps, et donc la lumière qui passe dans cet espace-temps, elle est affectée par la présence de cette matière noire, donc c'est les effets de l'antigravitationnel. Donc les effets dynamiques sur des étoiles ou des planètes que l'on voit, les effets de l'antigravitationnel sur les galaxies que l'on voit, et donc ça met en évidence l'existence de cette matière. On peut en compte donc à la fois la quantité et la distribution spatiale.
Une question. Je suis ici.
Ah, vous êtes là.
Vous n'avez pas voulu parler de... Vous n'avez pas voulu parler de Big Bang il y a quelques instants, mais il y a quelques temps, on nous parlait de Big Crunch. Et avec maintenant la matière noire, avec l'énergie noire, il est question d'univers infini. Alors, je me dis que peut-être il y aura une nouvelle théorie qui nous dira que l'univers se divise finalement en 4, 5, 10, 100. Qu'en pensez-vous ?
Alors, on va remettre les choses en ordre. Donc, dans la théorie initiale, en fait, la façon dont l'univers se dilate en cours du temps dépend du type de matière qui est dans l'univers. Donc, on avait différentes solutions. Déjà, à l'époque, dans les années 20, à l'époque de Lemaître et Friedman, ils connaissaient toutes ces solutions. Ils savaient qu'il y avait des univers qui partaient, qui continuaient à s'étendre comme ça. Ils savaient qu'il y avait des univers qui partaient, qui devaient, et qui s'accéléraient. Ils savaient qu'il y en avait qui partaient et qui tombaient. Donc, c'était les mêmes, c'est le même type d'univers, c'est le même modèle, avec des paramètres un petit peu différents. Donc, pour savoir dans quel type d'univers on était, est-ce que notre univers allait aller vers un Big Crunch, allait s'étendre comme ça sans rien faire, allait partir en expansion, ça dépendait de ce qu'on était capable de mesurer. Si on a changé d'avis, entre guillemets, on n'a pas changé d'avis, mais si vous avez entendu le fait que les gens ont eu l'impression de changer d'avis, bonjour, c'est que les observations leur ont permis d'affiner leur connaissance de la matière dans l'univers et de dire, ah, les paramètres, c'est pas celui qui vous amène comme ça, mais c'est celui qui vous amène comme ça. Et ça, c'est le progrès des observations astronomiques qui ont permis de mieux comprendre dans quelle se branche de la solution on était. Donc là, on n'a pas changé d'idée. C'était le même, mais on ne savait pas exactement quelle était la quantité de matière, la quantité de radiation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, c'est parce qu'on a affiné depuis presque 50 ans cette connaissance-là qu'on a pu déterminer sur quel type de solution on était. D'accord ? Donc, on n'a pas changé d'avis. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas prendre des univers qui vont faire quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas de raison pour ça aujourd'hui. J'espère que ça vous... Voilà.
Oui, je vais revenir sur une question précédente parce que décidément j'ai un peu de mal à comprendre par rapport à l'univers fini ou infini. J'ai du mal à comprendre parce qu'au début vous avez commencé à dire que c'était pas une question à laquelle on pouvait répondre, s'il était fini ou infini, mais à partir du moment où on démarre d'un Big Bang, enfin d'un moment où tout est condensé et c'est en expansion, si ce que j'appelle l'univers c'est la zone où il y a de la matière, c'est forcément fini, vu que ça a grandi depuis un certain temps, ça a forcément une limite. Derrière, c'est du vide, où on ne peut pas, peut-être pas dire ce que c'est, mais l'univers est bien fini, du coup, forcément, s'il grandit depuis un temps où il était condensé, il est fini.
C'est une très bonne question. D'accord. C'est une excellente question, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on lit dans les livres, c'est jamais bien... Je ne sais même pas si j'ai une bonne image moi-même, d'accord. Parce que quand vous voyez... Non, mais on va essayer. Dans l'image habituelle... Big Bang, on a l'impression d'une explosion, et quand vous avez une explosion, à quoi vous pensez, comme vous le dites, c'est une explosion en un point, avec les trucs qui partent, d'accord ? Et ce qui part, ça va donner des galaxies là, et il est clair que si l'univers a un âge fini, il y a une certaine vitesse de propagation de ce truc-là, et donc au-delà, il n'y a rien, d'accord ? Ça, c'est ce que vous avez dans l'esprit. Le problème, c'est que ça, c'est une vision, comment dire, je ne sais pas d'où elle vient, cette vision, elle vient de notre sens commun, parce que c'est ça qu'on appelle une explosion. Imaginez aujourd'hui que vous étiez capable de voir une explosion dans laquelle, eh bien, au lieu de créer l'explosion en un point, vous créez l'explosion partout en même temps sur une ligne, partout sur un plan. Eh bien, ça serait une image complètement différente. Si j'étais sur une ligne, j'aurais un truc qui partirait comme ça, ça serait fini dans une direction, et si j'avais une ligne infinie, ça serait infini dans l'autre direction. Mais en fait, ce Big Bang, c'est pas quelque chose qui se passe en un point, ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'espace entier, en fait, qui... C'est un espace, c'est une explosion dans un espace à trois dimensions infini lui-même. Donc c'est complètement contre-intuitif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le modèle lui-même n'explique pas cette phase-là. D'accord ? Dans ce qu'on a fait depuis les années 80, qui sont ces phases d'inflation, eh bien on comprend en fait pourquoi il y a par moment des zones d'espace à trois dimensions comme ça qui se mettent à grandir comme ça, alors que ailleurs c'est pas le cas. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, la notion d'explosion, elle est complètement... elle donne des fausses idées. Oui, c'est pas suffisant.
Attends, parce qu'il n'y a pas énormément de temps, donc peut-être... sauf s'il n'y a pas d'autres questions, mais...
D'abord, votre exposé était très éclairant, mais l'idée... On a un petit problème quand on n'est pas spécialiste de choses, c'est qu'on utilise le vocabulaire quotidien pour essayer de décrire des événements et des objets qui, eux, ne sont pas du tout quotidiens. Et quand on dit, par exemple, matière noire, noir, ça veut dire quoi? Ça veut dire seulement qu'il existe là de la matière dont on ne sait pas comment elle est faite. C'est uniquement ça. Il faut, je dis ça parce que j'ai rencontré quelqu'un un jour qui ne comprenait pas le mot antimatière. Et quand je lui ai eu expliqué que l'antimatière, c'était de la matière qui avait des caractéristiques électriques un petit peu différentes, du coup, ce qui lui paraissait un paradoxe a été levé. Et je pense que pour ce qui est de ce qu'on nous raconte actuellement de matière noire et d'énergie noire, il serait bon pour les gens comme vous, enfin, il est bon que vous nous expliquiez que ce sont des mots, mais que ça n'empêche pas les objets d'exister parce que les mots ne sont pas précis.
Alors là, je ne peux pas être plus d'accord, j'ai d'ailleurs écrit pas mal de trucs dans cette ligne-là. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que voir? En fait, c'est la continuation de ma notion de voir, c'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est nos sens, et il est clair que, par exemple, si je vous demande c'est quoi cette table, vous la touchez, là, ah, tiens, c'est dur, ah, c'est plein, c'est dur, c'est lisse. Bon, c'est les sens, que mes sens me disent ça. Si je la regarde au microscope, je vais voir un truc qui est vide, un truc qui est rugueux, et voilà. Donc, la réalité de ce que c'est cette table, et pas celle qui m'est donnée par les sens, parce que, en fait, un microscope me permet de me rendre compte que c'est une réalité tout autre. Et ça, il est clair que dès que l'on commence à parler des phénomènes à l'échelle microscopique, en particulier avec la mécanique quantique, ou aux échelles macroscopiques, comme en cosmologie, eh bien, on va être obligé d'utiliser des mots qui sont des mots que nous, on a créés avec notre langage. Ce langage, c'est déterminé quoi? Par simplement notre interaction avec le monde extérieur, donc avec des échelles métriques, avec des forces qui sont les forces ordinaires de la nature. Et donc, on n'a pas de mots pour ça. Et il est clair que les physiciens sont très mauvais, voire exécrables, pour choisir la dénomination de leurs objets. Pensez simplement à la notion de force, d'accord? Parce que c'est la force. Mais non, une force, c'est un vecteur, un truc. Ça, on peut comprendre pourquoi les gens ont choisi ce mot-là. Et ça serait très intéressant de faire même une sorte de livre qui expliquerait tous les mots de la physique et voir quelle a été leur origine. Sur matière noire et énergie sombre, on a été beaucoup à dire que c'était pas une bonne dénomination. Déjà, il aurait fallu appeler ça transparent parce qu'en fait, là, c'est de la matière, comme vous le disiez, que l'on ne connaît pas, mais surtout qui n'interagit pas avec la lumière, qui laisse passer la lumière. Qu'est-ce qui laisse passer la lumière? C'est pas le noir, c'est le transparent. D'accord? Donc, simplement ça. Le problème, c'est que... Bon, c'est bon, je peux le dire, il n'y a pas de... C'est bon. C'est que ces mots-là, en général, parce qu'ils ont plus de force, c'est souvent les Américains qui les forgent. Et, bon, bref, ils réfléchissent moins que nous, alors...
Nous avons beaucoup de camarades américains aussi, j'espère qu'il y en a.
Non, c'est juste pour les chambrer un peu. Non, mais c'est vrai qu'ils avaient, il y a une force de la... Quand on fait un mot, quand on choisit un mot comme ça, il y a souvent, ça se crée dans un contexte, parce qu'on doit parler de quelque chose, et puis il y a quelqu'un de plus influent qui va utiliser une dénomination parce que ça lui a donné cette idée-là, et puis ça va être adopté par la communauté, puis quand on réfléchit à ce que ça veut vraiment dire, on se rend compte que c'est pas le bon mot. Hein. Pensez à trou noir, je sais pas où il y a le trou, et je sais pas où est le noir, donc, mais bon... Voilà, souvent je disais en plaisantant, un trou noir n'est ni trou ni noir. On me demandait c'est quoi un trou noir, je disais c'est ni trou ni noir. Et après il faut expliquer pourquoi, mais c'est exactement ça. Sauf qu'au moment où les gens se sont dit, ah, trou noir, les Français avaient proposé astre occlu. Alors vous imaginez, astre occlu, trou noir, c'est tout de suite plus... bon.
Moi, je me demandais, j'ai cru comprendre il y a quelques mois là qu'il y avait des scientifiques qui commençaient à proposer un peu un nouveau modèle, justement, qui pouvait expliquer, réconcilier un peu relativité générale, ce qu'on connaissait pas, avec pliure de l'univers, etc. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une petite ébullition scientifique avec que je suis évidemment incapable de retranscrire l'équation. Enfin, c'était une équation très simple, E égale je sais pas quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui était voilà, désolé, non, je ne suis pas scientifique, mais bon, qui était une tentative de réconcilier un peu justement, enfin, d'aboutissement sur toute la recherche qu'il y a depuis en gros un siècle, et où apparemment ça a créé un peu une petite ébullition avec ah tiens, c'est peut-être une piste intéressante, voilà. Donc je me demandais
donc,
si.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a plein de choses qui se passent dont on ne parle pas, c'est-à-dire que l'ébullition dans les laboratoires d'essayer de d'écrire une théorie de la gravitation compatible avec la mécanique quantique, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 70, il y a plusieurs théories alternatives en compétition qui sont créées, qui partent sur des hypothèses différentes, la théorie des cordes, les théories quantique-kabouk, et ainsi de suite. Chacune progresse. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y en a aucune qui repose sur une équation simple. Et croyez-moi, à la résultat, ce ne reposera pas sur une simple équation simple de trois lettres. Ça, c'est quelque chose d'évident, parce que cette théorie-là, dans certains régimes, doit déjà retrouver les structures de la relativité générale d'un côté et les structures de la mécanique quantique de l'autre. Et ça, déjà, ces théories-là, ce n'est pas des théories qui s'écrivent simplement. Donc la théorie mélangée, mariée ces deux types d'approches dans une théorie unifiée, c'est quelque chose où même Einstein, déjà dans les années 30, en fait, s'était rendu compte que ça allait être nécessaire. Il a travaillé tout le reste de sa vie sur ce sujet-là sans aboutir. Ça a été repris et à chaque fois, ça vient sur des nouvelles idées. Et ce qui vraiment dirige actuellement ce genre de réflexion, c'est les mathématiques. À chaque fois qu'on comprend un petit peu mieux des objets mathématiques, on se pose la question de savoir est-ce que ces objets mathématiques vont pouvoir généraliser ce qu'on utilise aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. La deuxième étape, c'est une fois qu'on aura une théorie qui sera cohérente, c'est d'essayer de voir si elle a des prédictions observationnelles ou expérimentales qui nous permettent de nous dire si on est sur la bonne voie. Et aujourd'hui, dans la nature, il n'y a aucune observation qui nécessite ça pour être comprise. Donc c'est aussi un problème. Imaginons qu'on crée une théorie et qu'on n'ait pas de domaine d'application, un phénomène qui nécessite vraiment cette théorie-là et que c'est juste pour des raisons de cohérence mathématique. On serait embarrassé parce que ce que l'on... Disons, pour nous, les physiciens, c'est important que cette théorie soit raccrochée à un phénomène de la nature. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là, qui est très intéressante, et où il y a des choses qui se passent tous les jours. Alors de temps en temps, il y a une idée qui sort dans un journal ou dans un autre, ou à la radio, suivant qui parle et interviewé, donc je ne peux pas vous dire exactement qui c'est. Mais oui, c'est normal, vous en entendez parler. Et si à chaque fois que vous allez voir, il y a une explication simple, dites il y a anguille sous roche, là, on essaye de marrer, parce que ça ne sera pas simple. Ça, c'est tout ce que je...
Oui, alors moi je voulais vous poser une question.
Ah, mais monde, c'est même pas une théorie. Hein. C'est encore moins. Non, c'est. Monde, c'est pas une théorie. Voilà, c'est.
Oui, à propos de Carlo Rovelli qui écrit beaucoup sur les mondes multiples, est-ce que ça vous semble farfelu ou est-ce que ça vous semble tenir la route? Alors j'ai un de mes amis qui ne jure que par lui en me disant que c'est.
Carlo, il écrit sur les mondes multiples?
Non, oui,
Carlo
oui.
Il écrit sur les mondes multiples. Il a écrit sur le. Non, Carlo a écrit sur la notion de. Que fondamentalement, il n'y a pas de temps. C'est pas lui qui écrit sur les mondes.
Non, les mondes multiples, hein, j'ai bien lu. Ah oui, il y a eu un bouquin. Donc bon, je sais pas, mais moi je suis pas une spécialiste, mais enfin je voulais savoir ce que vous en pensiez de ces fameux mondes multiples.
Alors, ça c'est. Donc ces mondes multiples, comme je disais tout à l'heure, pour comprendre cette nécessité d'ajuster finement les lois de la nature, c'est une des deux voies actuelles. Le problème est, c'est qu'aujourd'hui, c'est un niveau d'idée. On n'a pas de mécanisme de théorie physique qui vraiment réalise ces mondes multiples. Et surtout, au moment où on veut faire un calcul, on se retrouve avec des problèmes très très compliqués parce qu'on calcule des choses et en gros, on est amené à évaluer des choses du type infini divisé par l'infini. On est un petit peu tous bloqués. Donc il faut arriver. Mais c'est pas. Oui, ça fait rigoler, mais en fait, ça a été souvent le cas dans la physique. Hein. On est tombé sur des absurdités et cette absurdité nous dit ça veut dire qu'il faut travailler plus vos mathématiques. Pour donner un sens à ce que vous êtes en train de calculer. Dans les années 70, c'est une idée de monde multiple. Déjà, Steven Weinberg, qui a eu le prix Nobel et tout ça, était arrivé pour dire, vous savez, ce problème de la constante cosmologique, la façon de le résoudre, c'est les univers multiples. Et il avait même prédit, il avait dit, vous voyez, si on fait ça, on va trouver 0,7, et c'est, on mesure 0,72 et tout ça. Donc, les gens avaient dit, vous voyez, il avait déjà prédit cette valeur. Mais quand on regarde le calcul en finesse, on se rend compte que, de façon cachée, il a divisé des infinis par des infinis. Et il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus, donc c'est une idée qui n'est pas à rejeter a priori, qui est même considérée par pas mal de gens dans les laboratoires, d'essayer de savoir si on peut lui donner un vrai sens auquel on puisse vraiment faire des prédictions. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas là. Donc ça attire beaucoup de gens d'un point de vue métaphysique, parce que c'est vrai que ça permettrait finalement de comprendre un petit peu mieux notre place, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'image un petit peu, si vous voulez vous dire, c'est imaginer que vous naissiez dans une pièce sans fenêtre et sans porte, et vous êtes tout seul. Et vous essayez de comprendre qui vous êtes. C'est un peu compliqué. Maintenant, si vous voyez qu'il y a d'autres êtres humains, qu'il y a des interactions entre êtres humains, qu'il y a des phénomènes de reproduction, des machins, vous comprenez un petit peu mieux comment votre nature. Et c'est un petit peu l'idée des univers multiples. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul univers, on va avoir tous les univers possibles, et puis il va y avoir des relations entre ces univers, et ça pourrait permettre de comprendre la particularité de notre univers, dans le sens où notre univers est un univers qui permet d'héberger des observateurs. Donc c'est un petit peu ça. Et ça, c'est un changement énorme. que aujourd'hui on peut pas dire, je peux pas affirmer en public de dire c'est la bonne voie. C'est une voie qui est attirante. Il pourrait y avoir des bons développements et peut-être des grandes surprises, mais aujourd'hui on est en train d'essayer d'écrire un modèle qui fait sens. Ah oui. Ah oui, d'accord.
Alors au début vous nous avez dit que lorsqu'on a plusieurs théories en compétition, il fallait quantifier la cohérence en quelque sorte de ces théories. Alors qualitativement je veux bien avec par exemple le principe du rasoir d'Occam, c'est-à-dire la théorie qui a l'air la plus simple, et comment on le fait quantitativement?
Alors quantitativement il y a plusieurs choses que tu peux faire. Bon, déjà tu vas te baser sur une formulation mathématique de ta théorie, donc simplement le fait que cette théorie soit cohérente mathématiquement, c'est quelque chose qui n'est pas gagné a priori. Il y a plein de théories, par exemple, les gens qui ont voulu faire de la gravitation modifiée, vous parliez de monde, par exemple, c'était monsieur qui parlait de monde tout à l'heure, c'était monsieur. Donc ça, le monde, c'est un truc phénoménologique, on change la loi de Newton comme ça. Les gens ont essayé d'écrire des théories qui reproduisent monde, qui sont des théories de physique, vraiment de théorie des champs. Dans ce cadre-là, en général, on arrive à avoir une formulation, mais il y a des instabilités qui apparaissent, il y a des fantômes qui apparaissent, il y a des choses qui montrent que cette théorie, quelque part, elle n'est pas une théorie mathématiquement cohérente. Donc ça, c'est la première chose. Tu veux une théorie qui est mathématiquement cohérente, une théorie dans laquelle tu puisses faire tes calculs et faire des prédictions. Et la deuxième chose, c'est que tu vas essayer de comparer ces théories aux observations. Et c'est ça qui va te dire, finalement, quelle est la théorie qui est la plus probable, étant donné un ensemble d'observations que tu as. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de la démarche scientifique.
Voilà. Vu l'heure, on va peut-être prendre la dernière question, parce qu'il y a, des tas de questions. Alors j'intimide beaucoup en disant ça, bah tiens, voilà.
Oui, alors ça serait une question sur la matière noire ou sombre ou ce que vous voulez. Donc on a de plus en plus d'expériences dont vous avez montré là, récemment grâce à l'antigravitationnel qui permet d'avoir une carte de la densité dans les galaxies. J'avais une question vraiment très bête. Avant même qu'on ait la connaissance atomistique dans la nature, on avait la thermodynamique qui nous permettait de comprendre plein de choses, avec la température, la densité, des choses comme ça, les gaz. On a bien compris largement avant de connaître le mécanisme microscopique. Alors là, vous montrez qu'il y a une densité de matière noire autour des galaxies. On connaît à peu près la partie gravitationnelle. Si on peut estimer la température de ce gaz en disant que c'est à l'équilibre, est-ce qu'on pourrait en déduire, par exemple, la masse des constituants de cette matière noire?
Donc c'est un petit peu le problème, c'est qu'il nous faut à la fois la masse et la densité. D'accord ? Donc en fait, on a la masse totale du halo, mais un halo donné, on peut le mettre en un halo avec deux fois plus de particules de masse moitié. Donc ça, pour l'instant, les observations ne nous permettent pas de faire la distinction entre ça. Ensuite, si on est dans des modèles précis, donc si j'écris un modèle de théorie de matière noire avec une nouvelle particule, par exemple, alors là, je vais avoir en fait quelque chose, parce que je vais avoir un paramètre qui est la masse, mais en fonction de ce paramètre, on peut calculer ce qu'on appelle la densité relique, donc la densité moyenne de cette particule. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir dire que tel modèle avec des particules de telle masse est exclu ou en accord avec les observations. Mais d'un point de vue complètement indépendant d'un modèle, on n'est pas capable de faire ce genre de conclusion pour l'instant.
Alors, oui.
Merci à vous.
Ah, merci beaucoup Jean-Philippe pour cet exposé passionnant. J'imagine qu'il y aura eu des tas d'autres questions. Alors peut-être que
bah, si tu as
un petit peu de temps, alors voilà. Tu seras un tout petit peu plus loin parce que
oui,
le problème,
non.
Tu sais, the show must go on.
Oui,
donc on a l'exposé là tout de suite de Marc Péchanski, hein, que vous êtes sans doute beaucoup à connaître. Donc qui portera sur les thérapies géniques.
Salut.
Donc on est un tout petit peu en retard.
Ah.
On va commencer dans 5 minutes, le temps de s'installer.